I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK.
J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais...
J'adore les animaux, hein, par ailleurs, mais n'insultez pas dans les commentaires.
Ben, bien sûr que si, Mimi, je fais ce que je veux, d'accord?
Oui.
Je n'ai pas compris ce point dans le podcast.
Le kiff. Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases.
Quoi?
Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là, putain.
Mais ça va pas de me poser une question pareille.
Bonsoir, bon après-midi. Bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer numéro 171. On se calme. Je suis donc Mimi, la rédactrice de Mademoiselle et l'animatrice de Laisse-moi kiffer, le meilleur podcast jusqu'à preuve du contraire, selon les mots immortels de Mehdi Maizi. Je suis entourée, comme à mon habitude, d'une team de choc que j'aime à vous présenter par des petits portraits chinois. Nous avons aujourd'hui un invité exceptionnel. Vous le savez si vous avez regardé l'image qui va avec ce podcast, il s'agit de Fibre Tigre, oui, qui vous parlera très bientôt. Et en l'honneur de Fibre Tigre, j'ai eu envie de demander à ma team... Quel monde imaginaire êtes-vous? Puisque Fibre Tigre est un auteur de l'imaginaire, entre autres. Et pour une fois, je vous ai donné un petit peu d'avance, parce que c'est pas très facile d'avoir une réponse directe à claquer. Du coup, maintenant, vous avez eu le temps de méditer, ma très chère Aïda. Quel monde imaginaire es-tu?
J'espérais tellement ne pas devoir être la première personne à répondre à cette question.
Ça va, t'as eu au moins 20 minutes pour y penser.
Tu vas pouvoir dire que c'est Harry Potter et voilà.
Arrête!
Non, il faut que ça lui ressemble. Elle est pas Harry Potter.
Je suis au contraire d'Harry Potter. Non, en vrai, j'ai réfléchi. En fait, tu m'as posé la question et il m'est arrivé ce qui m'arrive souvent quand on me pose une question d'importance. Je me suis mise à oublier tout ce que je savais sur tout.
Oui, c'est normal.
Ah oui, l'imaginaire, c'est quoi déjà?
Peut-être et... un poivron.
J'imagine Aïda qui réfléchit, qui oublie tout, qui est dans un trip LSD. Tu sais quoi? Mais qui suis-je en fait?
Chaque semaine, laisse-moi kiffer, c'est des questions existentielles.
Peut-être
et des
qu'on
crises
vit
de
dans
foi.
L'imaginaire déjà.
Mon monde imaginaire, c'est la réalité. Ouvrez les yeux.
On est tous dans la matrice en fait.
Tu connais quoi?
En vrai, je me suis dit que j'étais le monde de l'imaginaire qui correspond au dernier bouquin d'imaginaire que j'ai lu, qui est Nos jours brûlés de Lorraine Safou. Et en gros, donc Lorraine Safou, c'est une autrice afroféministe qui fait de la littérature jeunesse notamment, mais aussi de la littérature un peu plus pour adultes. Et là, elle a sorti...
Française,
absolument. La fierté du monde de l'édition français.
Cocorico.
Et en gros, elle a sorti il y a peu un bouquin de young adulte qui s'appelle Nos jours brûlés, qui est une saga dans un monde dystopique, un futur imaginaire où le soleil a disparu. Et ça se passe en Afrique. Et donc, en gros, la saga, c'est une jeune femme et sa mère qui partent à la recherche du soleil dans un monde imaginaire où elle se balade dans plein d'endroits de l'Afrique continentale et elles sont à la recherche de déités perdues. Donc voilà, il y a des animaux magiques un peu étranges qui se baladent dans le noir, dans des forêts sombres. Il y a des déités hyper stylées qui font plein de trucs. Il y a des meufs badass qui se baladent dans le noir et qui ont peur de rien ou qui ont peur de tout, mais qui vont quand même, ce qui est aussi... ma foi, respectable.
Tout à fait. Et relatable aussi. Ouais. Personnellement, j'ai peur d'énormément de choses.
De ouf. Et voilà, c'est hyper bien, c'est hyper riche, il y a plein d'actions. Et en même temps, c'est aussi ce que j'aime particulièrement dans ce bouquin et dans ce monde, c'est que, effectivement, les personnages sont relatable. Donc l'héroïne, parfois, elle fait de la merde et t'as un peu envie de lui crier dessus. Comme moi, finalement. Il y a des jours où je ne fais pas ce que je dois faire.
Un
et
mardi
c'est
au bureau,
pas grave.
Finalement.
Il y a des jours où j'ai la gueule de bois et je regrette mon existence.
Buvez trop de café, faites des podcasts.
Voilà, je suis Nos jours brûlés.
Très bien. Et du coup, petit plug, vous aurez le lien dans la description, mais Aïda a réalisé une formidable interview de Lorraine Safou à l'occasion de la sortie de Nos jours brûlés que vous pouvez
aller la lire. Elle est merveilleuse.
Excuse-moi, il fait froid s'il n'y a pas le soleil?
Il fait...
J'avais une question sur la viabilité de ce monde sans soleil aussi.
Non, mais peut-être que je me suis dit, peut-être la Terre a arrêté de tourner, donc elle a toujours du côté soleil, tu vois.
Il y a
donc,
un côté qui crame, et ouais, les autres qui ont froid.
Ouais. Peut-être qu'il y a un truc qui couvre le soleil, mais qui empêche pas certains de ses rayons de réchauffer, tu vois, on sait pas.
Mais attendez, ah, on sait pas, je suis en train de suer, moi, mon kiff est pas aussi préparé. Enfin, ma réponse est pas aussi préparée que ça.
C'est pas grave, on va broder.
Un truc, c'est que je sais des trucs sur la vie d'Aïda qui sont incroyables. La vie de personne d'Aïda.
C'est pour ça. Okay.
Elle a pas besoin de monde imaginaire. Elle est...
Fibre, il connaît tous mes secrets.
Ouais, un jour, faudra quand même en parler, peut-être dans un Laisse-moi kiffer de qui tu es. Hein.
Peut-être.
Un jour.
Qu'on fera un Laisse-moi kiffer autobiographique.
N'est-ce pas tous les Laisse-moi kiffer finalement. On raconte nos vies. Merci, Aïda.
Merci à vous.
Alors, moi, du coup, j'ai été fouillé dans mes souvenirs d'enfance, donc c'est-à-dire la veille, puisque j'ai 12 ans, et j'ai retrouvé un monde qui s'appelle Gwendalavir, qui est un monde commun à plusieurs livres de Pierre Bottero, qui est décédé, mais qui était chouette quand il
Trop
était
bien,
vivant.
Trop bien, Pierre Bottero.
Ouais, et qui a bercé pas mal mon enfance.
Saga 2.
Alors, du coup, il y a les mondes des Willan, il y a les quêtes des Willan et le pacte des Marchombres. Et moi, c'est surtout le pacte des Marchombres qui m'avait beaucoup marqué avec le personnage d'Eliana. Qui était un personnage que je trouvais très badass, très attachant et auquel je m'étais identifié alors que je n'étais ni badass ni attachant.
Mais si, tu es les deux.
Non, vraiment à l'époque, rien à faire. Mais c'était très très chouette à suivre comme saga et je me souviens que c'était aussi un peu la saga où j'ai eu mes premiers émois, où j'étais mi-attiré par l'héroïne, mi-identifié et elle avait un espèce de comparse masculin dans un autre livre et j'étais mi-attiré par lui, mi-identifié. J'étais ok, il y a un souci un moment ou un autre.
Un indice chez vous.
Donc tout ça a commencé là probablement. Donc c'est la faute de Pierre Bottero, voilà.
Évidemment.
Si vous cherchez un responsable.
T'as dévoyé loin du chemin de la cisnormativité hétéro.
Bah ouais, mais j'avais le même âge que les personnages et tout, donc je sais pas, j'étais à fond dans le truc.
Et c'est quoi comme genre de monde imaginaire? C'est fantasy, SF
Je pense que c'est plus fantasy. Mes souvenirs sont extrêmement flous. Je me souviens d'avoir tout dévoré à l'époque. C'était des trucs assez gros, en tout cas à l'échelle de mes toutes petites mains de moi de l'époque. Mais je me souviens que c'était un truc avec des espèces de formations pour devenir justement marchombre. Et je me souviens plus en quoi ça consiste. Hein. Globalement, il y a un bail de monter dans des arbres quelque part, se battre.
Tu voulais juste avoir un amoureux.
Et voilà. Une amoureuse.
Moi, je suis plutôt là-dedans. Ouais. Bon, mon fantaisie où on est juste sur des nuages, c'est ok.
C'est pas très bien. Vous irez lire les bouquins de Pierre Bottero pour en savoir plus.
Oui.
Et aussi pour lire des bons bouquins. Car c'est quand même un grand monsieur, effectivement, ouais. Disparu trop tôt. Mais qui a laissé plein d'œuvres cool. Avant, donc c'est quand même cool. Fibre tigre, est-ce que tu sais quel monde imaginaire tu es?
Ouais, c'est vraiment, c'est arrivé tout de suite comme ça.
Yes, j'avais que c'était une bonne question pour toi.
Donc, j'ai fait un jeu qui s'appelle Outdare et j'ai écrit plein d'aventures, j'en ai écrit 300. C'est et en fait, il y a une aventure qui est mal aimée, qui s'appelle la planète Caramel. Donc, en fait, vous savez que les planètes, elles sont faites en roche. Donc, par
Alors,
exemple, en
contexte, Outzer, c'est un jeu vidéo d'exploration spatiale où on doit gérer un vaisseau et se balader de planète en planète, récupérer des ressources et parfois il y a des intrigues sur les planètes.
Voilà, exactement.
Contexte.
Donc, les planètes, elles sont faites en cailloux, ok.
La physique 101 par fibre tigre.
Des fois, une planète comme Jupiter, elle est plutôt faite en hydrogène. Et mais en fait, une planète peut être faite en n'importe quoi. Et il y a par exemple une nébuleuse qui est faite en alcool de framboise. Donc c'est la réalité. Et donc on a imaginé une planète qui est plausible, qui est faite en caramel. Donc c'est du sucre, peut-être une petite boule, une grosse boule de caramel. Et en
du
fait,
du coup, tu t'accroches si tu te poses dessus.
Et donc le héros il arrive et puis ça colle, tu vois. Mais il dit c'est du caramel quand même, tu vois. Et
je veux manger le caramel spatial interdit.
Et en fait, c'est vraiment enfin. Mon associé et tout le monde personne n'a aimé cette aventure. J'ai vraiment dit, mais c'est n'importe quoi, une planète en caramel, c'est pas possible, tu vois. Et effectivement, il y a que deux,
trois
grosses.
Disons que le jeu est quand même plutôt sérieux et tout.
Voilà.
Donc il y a un côté un peu Willy Wonka qui arrive.
Mais pourquoi pas?
Dans Interstellar, quoi. Mais moi, j'adore.
C'est quoi les êtres vivants sur la planète caramel?
Non, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'êtres vivants, il y a juste, juste une boule de caramel. C'est comme la lune, mais au lieu qu'il y ait de la cendre, il y a du caramel. Et voilà. Et donc, je pense que je suis la planète caramel parce que je mange beaucoup de sucre, il y a beaucoup de sucre en moi. Et voilà. Et je suis pas forcément bien aimé, tu vois. Je suis
un personnage controversé de l'internet.
Je suis obligé de me défendre, tu vois, pour dire mais cette planète caramel, elle a de la valeur, tu vois. elle vaut le coup croquer dedans, tu vois.
Voilà. Très bien, croquer dans fibre tigre la planète caramel. Super. Eh bien, écoutez, pour ma part, j'ai bien réfléchi à ma propre question. Je voulais être la comté, évidemment, la comté où vivent les hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Mais en vrai, je pense que ça reste, même pour moi, un peu trop répétitif, la vie dans la comté, parce qu'il y a vraiment un côté, on aime se faire chier et faire les mêmes choses tout le temps.
Ouais.
j'ai quand même besoin d'un peu de dynamisme et à la fin, je vis dans le 11e arrondissement parisien et absolument pas à la campagne et je ne sais pas tenir un potager, donc je pense que je suis pas vraiment la comptée, même si j'aimerais beaucoup y partir en week-end. Du coup, je pense que je suis l'univers de À la croisée des mondes, qui est une trilogie jeunesse incroyable, écrite par Philip Pullman dans les années 90 et traduite best-seller mondial, adaptée en film bof et en télé-réalité un peu, en série télé un peu moins bof.
En télé-réalité, ça
serait trop bien, mais c'est impossible car ça n'existe pas. Et la particularité de À la croisée des mondes, c'est que dans le monde où vit l'héroïne Lyra, tous les êtres humains naissent avec ce qu'on appelle un démon, D-A-E-M-O-N, donc pas quelque chose de méchant, qui est une personnification de son âme sous la forme d'un animal qui parle. Et c'est un animal dont on ne peut pas s'éloigner, qui fait partie de nous, mais qui est extérieur à nous, donc il peut grimper sur nous et tout, mais on ne peut pas aller très loin de lui, sinon ça brise le cœur et on peut en mourir. Et la particularité des démons, au-delà du fait d'être ton âme qui parle en forme d'animal, c'est que jusqu'à la puberté, ils peuvent changer de forme à volonté, donc prendre la forme de tout animal qu'ils veulent et des aptitudes qui vont avec, ils peuvent voler, ils peuvent nager. Et à la puberté, il prend sa forme définitive qui représente aussi ta personnalité. Donc l'exemple classico du bouquin, c'est que les gens qui ont des personnalités plutôt serviles, plutôt qui veulent plaire à tout le monde, ils vont avoir un démon qui prend la forme d'un chien, parce que les chiens, ça marche plutôt comme ça. Et donc c'est toute une réflexion sur grandir, devenir adulte, choisir ses renoncer, tout ça, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Mon rêve depuis que j'ai 12 ans et que j'ai mis la main dessus, c'est d'avoir évidemment un démon. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à qu'est-ce que ce serait comme animal. Je pense que ce serait un gros chat, évidemment, mais un gros chat un peu déter quand même. Et vraiment, c'est le rêve de ouf d'aller dans ce monde et de découvrir ce qu'est.
C'est quand même un monde très cruel.
Ouais. Oui, c'est un monde. Bah, en fait, c'est un monde très cruel, mais pas pire que le nôtre. Donc, c'est un monde un peu victorien, incertain. C'est un peu steampunk, pas très défini en termes de techno. Et l'intrigue commence avec les enfourneurs qui sont un gang qui kidnappe des enfants. On ne sait pas pourquoi. Et il y a des rumeurs d'expérimentation sur les enfants et leurs démons. Donc, effectivement, c'est un monde assez dark. Mais bon, dans le monde réel, c'est pas comme s'il n'y avait pas des gens qui font du mal à des enfants aussi. Et il y a des trucs de passage d'un monde à l'autre. Il y a des parties de À la croisée des mondes qui se passent dans notre univers où, du coup, les gens sont horrifiés de se rendre compte qu'on n'a pas de démons et ils pensent qu'on est cassé parce qu'on n'a pas notre âme qui traîne avec nous et ils finissent par comprendre que nous, elle vit à l'intérieur. Et quand on passe dans le monde de Lyra, eh bien, on fait la connaissance de son démon et c'est mon rêve. Mais en attendant, j'ai une psy, c'est pas mal. Ça fait presque le même taf.
Est-ce qu'on peut ajouter que tome 2 de cette trilogie, à un moment, ils sont dans une ville où il n'y a pas d'adultes.
Oui.
Et c'est, à mon avis, l'endroit le plus kiffant du monde entier, de toute la littérature. Moi, souvent, je me pose et je me dis, j'aimerais bien être dans cette ville, quoi.
Ah, si t'as gaz. En fait, je vois ce que tu veux dire. C'est sympa, c'est une ville
en
bord de mer,
il
n'y a plus d'adultes. Mais quand tu comprends pourquoi il n'y a plus d'adultes, c'est assez badant. Donc, c'est à double tranchant. Il y a à côté un peu Sa Majesté des Mouches, tu vois. C'est marrant de ne pas traîner avec des adultes et au bout d'un moment, t'es là. En fait, c'est bien quand des gens savent ce qu'il faut faire.
Il y avait Gone aussi avec ce principe-là qui était sorti et que j'avais lu. Je sais pas si vous voyez ce que c'est.
Nope.
C'était un truc pareil où il s'est retrouvé qu'avec, je crois que c'était les moins de 15 ans. À l'époque, ça me paraissait très grand comme âge, donc je devais être jeune quand j'ai lu ça. Mais c'est le truc où du jour au lendemain, en fait, tous les adultes disparaissent et en gros, ils sont tous en flip parce qu'il y a des gosses qui ont genre 14 ans, je sais pas, et genre 8 mois, et qui sont en mode ah, et qu'est-ce qui arrive quand moi aussi j'ai 15 ans? Et en gros, il y en a qui développent des espèces de pouvoirs là-dedans et leur ville est mise sous dôme, en fait, c'est un peu étrange. Et ils sont un peu bloqués là-dedans et en fait, ça devient un truc de zinzin au bout de, je sais pas, un an, deux ans, en fait.
Oui, j'imagine.
Puis c'est plus du tout des enfants et en fait, tout le truc, c'est de savoir si le truc va disparaître, si les adultes sont morts, s'ils sont de l'autre côté du dôme. Et en fait, au tout dernier moment du livre, et je spoil parce que...
Non, spoil pas, t'es fou. Oh non, chut. Tu me dis que c'est mon podcast. Arrête,
spoil, tu vas pas me dire Gone, on s'en fout.
Ne spoil pas, on ne spoil pas dans la semaine.
Spoil pas. Et tout à l'heure, tu dis, la fin de Gone, c'est ça.
Mais arrête de pousser
la fin du podcast, random, tu vois. En spoil.
Anyway, avançons sur ce podcast. Ça fait un quart d'heure que nous parlons de tout sauf de nos kiffs. Merci beaucoup pour ce portrait chinois. Merci beaucoup pour tous ces mondes imaginaires qui donnent très envie de les explorer. C'est l'heure de passer aux commentaires. Aïda, est-ce que tu as des commentaires?
J'avais vraiment pas prévu de passer en premier sur quoi que ce soit aujourd'hui.
Ah, je fais mon commentaire.
Vas-y, j'en ai un, mais je vais le retrouver.
J'ai un commentaire de Manon Gigant, je ne sais pas, qui envoie sur Instagram. Yo l'équipe, je viens d'écouter l'épisode de la semaine et je voulais rebondir sur le kiff de Mimi. Mon kiff était une dégustation de nourriture dans le noir animée par une personne malvoyante. Je suis dans la team malvoyante depuis un an et demi. La vie nous fait parfois de beaux cadeaux, MDR. J'ai fait tout mon processus de rééducation, ce qui veut dire en gros devenir autonome sans mourir, à Paris, et on ne m'a jamais parlé des boîtiers qui activent les passages piétons. Je me sens exclue, ou bien j'ai pas encore débloqué le niveau nécessaire pour gravir les échelons dans la déficience visuelle vie. Cependant, vous saurez que sur les passages piétons, il y a des boîtiers jaunes. Sous ces boîtiers, il y a un bouton qui lance une horrible voix indiquant le nom de la rue qu'on s'apprête à traverser. Puis il fait de la musique quand c'est vert. Voilà, gros bisous tout le monde. Trop hâte d'aller tester le resto dans le noir, car moi je vois quand même un peu. Donc ça me fera toujours une expérience sympa. Eh bien, sache maintenant que tu n'y verras rien dedans. Et en fait, je pense, parce que du coup, on a parlé dans l'épisode de comment font les personnes malvoyantes dans l'espace public, puisqu'il y a aussi un rôle de pédagogie de ces ateliers sur la vie des personnes malvoyantes et non-voyantes. Et en fait, je pense que c'est moi qui ai mal compris. À Paris, en effet, il y a ces boîtiers-là sur les feux qui activent les passages piétons quand on appuie en dessous. Et du coup, ce que disait l'animateur de l'atelier, c'est que ça, c'est un problème parce que les gens les dégradent, parce qu'ils sont accessibles et que les gens sont des cons. Et aussi que la musique et la voix insupportables, ça fait un peu chier les riverains. Et que dans plein d'autres villes, c'est plutôt les personnes malvoyantes qui vont avoir, elles, un boîtier qui permet d'activer les feux quand elles passent. Et le feu te dit juste traverse ou traverse pas, mais il bip pas pendant 10 minutes non-stop. Donc je pense que, en effet, à Paris, il n'y a pas encore les boîtiers pour activer les passages piétons à distance, mais il y en a dans d'autres grandes villes. Et d'après le formateur ainsi que Manon, ça a l'air vachement mieux que ces boîtiers nuls qu'on a à Paris, parce qu'à Paris, tout est un peu nul. Voilà, c'est la vie. Voilà, c'était mon commentaire.
Aïda.
Oui, j'ai retrouvé mon commentaire. Alors, moi, c'est un DM de Mélanie Grégory qui dit « Salut Aïda, salut Mélanie ». Je suis en train d'écouter le LMK 167 où tu parles de revoir ton pote après 10 ans et de vos lettres à votre futur vous. Pour le contexte, il y a peu de temps, j'ai fait un kiff où je parlais d'avoir revu un vieil ami à moi que j'avais pas vu depuis très longtemps. Et quand on avait 17 ans, on s'est écrit des lettres à nos nous du futur en se disant « dans 10 ans, j'aimerais que t'aies fait ci, ça et tout ». Et donc elle dit « Pour ma part, j'ai eu 25 ans il y a 2 jours et j'ai lu une lettre que je m'étais écrite il y a 5 ans comme ça allait pas bien du tout dans ma vie. Eh bien, c'est incroyable d'avoir ce témoignage et de voir qu'en 5 ans, j'ai glow up mentalement et que tout va mieux. Morale, écrivez des lettres au futur vous pour pouvoir admirer le chemin parcouru dans 5, 10 ou 20 ans. Bisous à tout le monde, dit-elle. Et bah, très bon conseil, Mélanie.
Grave,
on va le faire.
Et grave. Bisous.
Et bisous, bien sûr, on t'adore.
Et bisous à Manon aussi, on n'a pas dit bisous à Manon.
Oui,
bisous vrai. Manon et Mélanie. Mathis, tu as des commentaires?
Oui, j'ai un commentaire de Tathilde avec des tirés du bas avant et après. Voilà. Hey LMK, je prends enfin le temps de vous écrire les zinzins. Donc, nous sommes les zinzins pour
c'est vrai.
Pour Tathilde. Il m'a fallu un trajet de 15 heures, trajet Toulouse-Lille, pour prendre le temps de vous écrire. Ça fait bien 3 ans que je vous écoute et c'est dans ces longs moments de trajet que je vous écoute. Ça me donne l'impression de ne pas être solo dans le bus avec 1000 inconnus. J'ai fait exprès de ne pas écouter les épisodes depuis un long moment pour pouvoir passer mon trajet en votre compagnie. Du coup, grosse dédicace à vous tous. Je vous love un max les zinzins. Continuez de nous faire rire. Kiss, je retourne à mon trajet. Il me reste encore 5h30 de trajet et plus que 3 LMK. Kiss, smiley, soleil, smiley fée. Voilà.
C'est très précis. 15h Toulouse-Lille.
Quelle horreur.
15h, c'est en bagnole, c'est en calèche.
Non,
c'est
les Flixbus, ça prend un temps fou à chaque fois.
Ah ouais, les cars.
Bah ouais, c'est les cars. Ouais.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est les cars. Bah courage, Tathilde.
Peut-être voilà. Qu'elle n'est pas encore arrivée, du coup, on pense à elle. Quoi.
Oui, bisous, Tathilde. On espère que tu es arrivée à bon port.
Vous voulez que j'invente un commentaire ou pas?
Grave.
Oui.
Ah ouais, tu veux improviser un commentaire du style que les gens t'envoient?
Bah attends, j'ouvre mon Instagram. Excusez-moi, c'est un silence.
Le mec va lire un random DM. C'est ma passion.
Ah, puis moi, je vais laisser le silence au montage. Hein. Je mets un bruit
très
de
bien.
Vent.
Silence du métier, moment de jamais de. C'est le moment jamais. Alors, je sais pas si vous savez, mais hier, il y a eu les meilleures les parutions de Spotify.
Oui, le oui. Spotify Wrapped.
J'ai beaucoup de.
J'ai jamais ça sur mon Spotify. Je sais pas ce qui se passe. Je
tu payes pas peut-être.
Mais si, pourtant.
Moi, j'écoute pas de musique, mais il y a un tuto pour y accéder.
Alors, Gwendal Coé, salut les LMK, je kiffe trop. Grâce à LMK, je suis allé voir le Darty pour en savoir. Pour en plus sortir avec une cafetière, je dis merci LMK. Voilà.
Merci Darty. Hein. Darty qui est, pour celles et ceux qui ne sont pas dans le Fibre Tigre Cinématique Universe, Darty est le partenaire de Game of Roll, non pas Mademoiselle, mais de Game of Roll Classico, qui est diffusé sur la chaîne Twitch de Mister MV. Et pour cette saison, Darty est le partenaire. Et du coup, si on va à Darty et qu'on parle de Game of Roll, il peut arriver des bricoles.
Non, il peut rien arriver, simplement les gens... merci Gwendal pour ta cafetière. Voilà, c'est tout.
Tout à fait. Merci pour la cafetière.
Après, il était question que notre phrase de fin soit assez Darty mon kikif, mais personne n'a accepté. Oui. Donc.
Bah, surtout tant que Darty ne sponsorise pas, laisse-moi kiffer. Non, quand même,
c'est
hein,
une idée qui est posée là. Voilà.
Eh bien, elle est là. On en parlera à Darty, avec qui on peut avoir un contact facile grâce à Fibre Tigre.
Ah bah, je vous les présente, oui. faudra expliquer à LMK, parce que déjà, avec Game of Thrones, on a eu beaucoup de mal. Donc,
C'est très dur d'expliquer à LMK, hein, vraiment.
Alors, j'ai une petite anecdote sur Darty, c'est que moi, on l'appelait partenaire senpai. Okay.
Et nerd.
Évidemment, ils nous ont entendu dire ça, et ils savaient pas ce que c'était senpai. Et les gens, ils ont fait une réunion PowerPoint, explication de senpai. Il y a un
ça
même
me bute.
Bah ben oui, parce qu'en fait, la blague de Senpai, c'est Notice Me Senpai, qui a un mème. Donc il faut savoir ce que c'est qu'un mème aussi. Genre, les gens qui sont.
Il faut savoir ce que ça veut dire Senpai en japonais. Il faut savoir que les nerds, ils aiment bien les trucs japonais. Il faut
savoir ce que c'est un mème.
quel est ce pays finalement?
Slide 157.
Non, mais tu vois, ils sont allés we need to go deeper, tu vois. Et donc nous, on dit, Tortue Senpai, tu vois. Et en fait, en vrai, c'est compliqué quand t'es pas dans le délire. Donc voilà.
Essayez un jour d'expliquer ce que c'est que le mème d'Arty Senpai à vos parents, par exemple. Ça devrait être une belle aventure. Pour continuer dans ces rendez-vous incontournables de Laisse-moi kiffer, nous avons une anecdote de star envoyée par Lily of the Valley, avec un L à la fin, qui nous raconte une anecdote de star très bof, sur une star très bof aussi, vous allez vite comprendre.
Les meilleurs.
Coucou, je me permets de vous écrire pour vous raconter une anecdote très bof de star. J'ai rencontré Dodo la Saumure. Pour rappel, c'est un proxénète impliqué notamment dans l'affaire DSK. Contexte, big up Mimi, big up. Je suis étudiante en graphisme à Saint-Luc-Tournay et un prof de typo nous a emmené voir une super idée de théâtre sur la prostitution. J'aurais pu en faire un gros kiff. À la fin, on avait un temps d'échange pour poser des questions et un monsieur très gênant, une main sur les testicules et l'autre sur le siège d'à côté, a pris plusieurs fois la parole, notamment pour râler sur l'interdiction de la prostitution en Belgique et sur ses 3 procès en cours. Plus il parlait, plus les chuchotements augmentaient. J'ai alors compris que c'était Dodo la S et non le S, parce que c'est un monsieur très malaisant. Voilà, j'ai partagé mon oxygène pendant 2 heures avec Dodo la Saumure et je pense que je ne ferai jamais mieux comme un egg-boff de star. Des bisous.
Mais attends, mais Dodo la Saumure, c'est une vraie personne.
C'est une vraie personne qui... Carlton de Lille, prostitution,
c'est le fournisseur de DSK. Hein.
Voilà, c'est le fournisseur de personnes pour les parties fines.
Mais moi, vraiment, tout ce temps, j'ai entendu son blaze et j'étais là, ouais, ça doit être un sketch.
Alors, il a un nom perso de pas de patrouille, c'est clair.
C'est comme Frigide Barjot, quoi, t'y crois pas au début et puis après tu... Ah ouais, en fait, si, il y a quelqu'un
qui... En fait, cette personne existe.
Ouais.
Tout à fait. Et elle a l'air charmante, ma foi, au demeurant. Merci, Lily of the Valley. Pour cette anecdote de star. Et c'est l'heure du message.
Boubou.
Du message.
Ré.
Du message.
Bourré.
Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Et voilà, c'est parfait. Et j'ai dû attendre avant de finir de mâcher mon porridge parce que je mange du porridge avant de dormir parce que je veux pas être hangover tomorrow. Parce qu'en fait, j'habite en Suède. Bon, en fait, aujourd'hui, je voulais écrire un message à Apple Podcast, 5 étoiles, laisse-moi kiffer. Et pour dire que... Oh, il y a quelqu'un qui marche dans l'appartement. Et juste pour dire que, en fait, j'écoute Apple Podcast. Non, j'ai boulé. J'écoute laisse-moi kiffer. Alors que le dernier épisode avec Jean-Paul Sartre, Damien quelque chose.
Et Damien Sargue.
Oui, j'ai écouté ça.
Salut.
Et alors que j'étais en train de faire modèle dans une école d'art nue, et ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis dit ça c'est bien une situation de LM kiffeuse d'être. Et en plus, je vais m'empêcher de rire parce que et j'avais envie de rire parce que c'est LMK. Bref, je vous aime. Et voilà. Je vous aime fort. Bisous. Je vais envoyer ça par mail parce que je sais qu'il faut le faire comme ça. C'est plus facile. Bisous, bisous. Je vous aime.
Incroyable.
Mais wow. Terrible le porridge.
Vraiment le porridge, c'est vraiment le déclic fonce dalle quand t'es éclaté, tu sais que t'as trop bu et tu te dis faut que j'éponge et tu manges vraiment n'importe quoi parce que manger du porridge en retour de soirée et alors en Suède je sais pas comment on picole mais dans ma tête on picole fort. Je suis pas sûre que ça soit cohérent de finir sur du porridge.
Mais
on sent l'urgence.
La gueule de bois.
Quoi?
Je sais pas, elle avait l'air de dire que comme ça elle aurait pas la gueule de bois le lendemain.
Bah je comprends le truc de si t'as pas mangé ou que tu te couches le ventre vide et que t'as picolé, tu te dis j'ai peut-être plus de risque d'avoir la gueule de bois. En vrai l'alcool ça déshydrate, donc buvez de l'eau surtout. Mais tu sens que tout n'est pas clair. Et j'adore les messages boubou parce que les gens c'est vraiment des labradors. Dès qu'il y a un truc qui les déconcentre, ils ont trop du mal à reprendre le fil. Et t'es là, il y a quelqu'un qui marche dans l'appartement et après
non,
c'est long.
Attendez, Jean-Paul Sartre et Damien Sartre.
Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, je cite. Ah non c'est pas lui. Non il y a pas Jean-Paul Sartre dans Laisse-moi kiffer. Incroyable message.
L'existentialisme est une comédie musicale, finalement. Ça n'a aucun sens.
Ah oui, franchement. Alors, j'adorerais, cela dit, voir la comédie musicale Jean-Paul Sartre.
Oh mon Dieu. Ce serait ma passion. Il faut qu'on la fasse.
Avec des philosophes qui se tapent en faisant des chansons.
Mais quand est-ce qu'on a un pôle comédie musicale chez Mademoiselle et qu'on crée?
On y travaille. On en parlera à Marine Normand, notre directrice générale. Je pense que c'est l'avenir de cette entreprise. Et en même temps, petite vie de bolosse, parce que être modèle nu en écoutant Laisse-moi kiffer sur Damien Sargue et pas avoir le droit de rigoler en Suède, je trouve que c'est une très belle image mentale.
Est-ce que la comédie musicale, c'est le nouveau lip dub malaise?
Ah mon Dieu.
C'est pas encore trop malaise, non? Il y en a des biens. T'as vu celle Charlie et la chocolaterie, toi? C'était malaise
ou pas? Ouais, bien sûr. C'est pour enfants, donc les enfants sont malaisants. Mais
c'est vrai.
En soi, la comédie, non, c'est plutôt assumé. Après, le problème de ce genre de truc, je trouve, la comédie musicale, c'est que s'il n'y a pas de thunes, ça fait malaise, je trouve, très vite.
Je parle de la comédie musicale, genre, dans l'entreprise, c'était le projet.
Ah non, non, on va produire une vraie comédie musicale.
On va pas jouer dedans.
Non, quoi que toi.
Moi, si,
peut-être qu'on jouera, bien sûr, les talentueuses personnes. Alors moi, je chante très faux et très mal, donc uniquement sous la douche.
Je me débrouille-ish.
Okay. D'accord, j'ai eu un petit... je me suis dit, tiens, il y a peut-être moyen de... Parce qu'on aimerait faire une comédie musicale... En fait, faire un épisode musical Game of Thrones, parce qu'en fait, Lydia et Lam chantent.
Ils pourraient venir d'ailleurs pour expliquer. Daïda. Attends, Lam et Lydia, ils chantent?
Ils chantent, genre on a dit, ça vous dit de chanter avec Alba? Ils ont dit, ah mais nous on chante, on fait une chorale et tout, on est à fond dans le truc.
Mais un Disney.
Et on s'est dit, ok, on va faire peut-être un épisode musical.
Bah parce que MV, ils chantent aussi.
Ah oui,
donc
voilà,
ça tombe trop bien.
C'est ça.
Sur Jean-Paul
Alors,
Sartre.
Dans l'équipe Mademoiselle, je ne me prononce pas pour mes coéquipières, moi c'est non. C'est non, je fais du triangle, c'est tout. Aïda, je ne chante pas en public et surtout pas sur Twitch.
Tu feras l'arbre, c'est pas grave.
Je fais l'arbre, voilà, je suis le buisson au fond et tu l'as.
Maman, regarde-moi.
Et tu peux faire un genre slam, genre tu déclames.
Ok, je peux faire du slam.
Ah oui.
Ah putain, ça va arriver. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch de Mademoiselle pour ne rater aucun épisode de Game of Roll et surtout pas l'épisode musical.
Exactement.
Qui risque d'arriver un jour, car Fibre a l'air beaucoup trop content quand
on
en parle.
Ah non, c'est un vrai projet, ouais.
Au pire, si on chante pas très bien. Ce sera drôle,
mais tu vas chanter mal sur Twitch, il n'y a pas de souci. Moi, je ferai un slam. Ou on peut rapper peut-être. Ouh.
Alors, en fait, sinon, juste, je suis désolé de la parenthèse, mais c'est le principe de LMK.
Ah, mais il n'y a pas de problème.
La digression.
On a une nouvelle règle Game of Roll non officielle, mais qui n'est pas filmée. C'est quand tu fais un critique, quand toi tu fais un critique, le MJ il boit un shot. Et quand tu fais un critique négatif contre toi, tu bois un shot.
Alors, j'ai fait un critique la dernière fois, je suis tombée dans le coma, rappelons-le, en cherchant une herbe dans ce jeu de rôle. Je n'ai pas eu de shot, donc merci
non, mais voilà,
de nous donner
donc,
des shots.
Et tu peux aussi améliorer tes jets de dés en buvant un shot. Et donc,
mais pourquoi on n'a pas ces règles, nous?
On a testé ça et je peux te dire que les gens ont des idées très étranges au bout de 2-3 quart d'heure de jeu.
Non, mais nous, on parlera des critiques en plus.
Là, la teuf, et vous buvez des coupes dans Game of Roll et nous, rien du tout, on a de l'eau. On en parlera hors antenne pour le 8 décembre. Rendez-vous le 8 décembre à 20h sur Twitch pour Game of Roll, Mademoiselle. Après une demi-heure, ma foi, d'enregistrement. Il est peut-être temps de passer au kiff dans Laisse-moi kiffer. C'est parti pour le jingle.
Jingle. Fini de rire avec vos putains de digressions. C'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est l'heure de cracher vos kiffs. C'est maintenant. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure de lâcher vos kiffs pour en faire des mèmes en gif. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs et de se détendre du sif. Oh ouais.
Waouh, merci Valentin, Cédric. Mathis, quel est ton kiff cette semaine?
Oui, bah après une intro comme ça, moi j'avais tout donné, donc je ne sais pas si j'ai encore assez d'énergie. Lundi soir, j'ai été au cinéma, donc vous me direz jusque-là, c'est pas tellement un événement, mais j'y ai été sur invitation, et là, c'est un événement déjà à mon échelle, parce qu'en fait, il y a quelqu'un que j'ai interviewé il y a longtemps, qui est Jay Desadelph, qui est un drag king que j'aime beaucoup, et je me suis intéressé à son travail à l'époque pour une pige, et en fait, bon, c'était très bien entendu, l'article était super intéressant, c'était vraiment le genre d'interview que vous faites, et après, c'est super difficile de couper, et de vous dire, merde, il faut se restreindre à un certain nombre de citations, et pas 14, par exemple. Et en fait, du coup, Jay Desadelph a joué dans un court-métrage dont j'ai entendu parler pas mal, parce qu'en fait, il a été au Festival de Cannes, il était dans différentes sélections, donc il y a eu la sélection de la Ciné Fondation, il y a eu la Queer Palme, il y a eu aussi un prix au Champs-Élysées Festival, et là, du coup, il y avait le Festival Chéri Chéri à Paris, qui s'intéresse donc à la culture LGBT, et du coup, au film LGBTQIA. Et donc, il y a ce court-métrage King Max, qui est réalisé par Adèle Vincenti-Crasson, qui dure une vingtaine de minutes, qu'on m'a invité à aller voir. Et en fait, il y avait plein d'autres courts-métrages, donc ça m'a permis de découvrir plein de choses différentes, ce qui était très très chouette. Le thème de la soirée, globalement, plus ou moins proche, mais c'était autour du drag, donc que ce soit King, Queen. Et voilà, c'était un court-métrage vraiment très touchant, avec un personnage principal, en gros, qui s'appelle Maximilienne, qui est joué par Julie Furton, qui est en gros une jeune femme dans une famille un peu tradie, où on sent qu'elle n'est pas très à l'aise, et elle est en questionnement sur son genre, on la voit face au miroir, vraiment sentir vraiment très mal dans son corps, dans sa peau, et en fait, en se baladant un peu au hasard pour prendre l'air dehors, elle tombe sur des drag queens, elle les suit, et en fait, elle se retrouve dans un club où il y a du drag king, et on la king pour la première fois, et voilà, c'est un peu l'évolution de ce personnage, ce que je trouve très très beau, parce qu'il y a vraiment un truc qui se passe, on en avait beaucoup parlé dans l'interview avec Jade Adelph, il y a quelque chose qui se passe dans ton regard quand tu te vois pour la première fois en king, en fait, quand tu t'imagines en homme.
Oui, donc peut-être les drag queens, ça commence à être connu, mais les drag kings peut-être moins, du coup.
Alors,
maybe
contexte,
point contexte pour exact. Celles et ceux qui n'ont pas autant entendu parler des drag kings que des drag queens.
Alors, le drag king est beaucoup moins connu en effet que le drag queen. Si vous avez compris ce que c'est qu'une drag queen, donc c'est-à-dire quelqu'un qui va venir performer le genre féminin sur scène, vous avez compris à peu près l'essentiel du drag king, c'est-à-dire quelqu'un qui vient performer le genre masculin. Ce qui est intéressant avec le drag king, particulièrement par rapport au queen, c'est qu'on a autant on n'a aucun mal à penser la féminité comme une performance, avec le maquillage, les tenues, on va mettre
les talons, les paillettes.
Voilà, exactement. Alors que les hommes, on va avoir l'impression qu'il faut en faire le moins possible. Et c'est d'ailleurs la ligne éditoriale de certains drag kings qui se disent « Moi, je vais arriver, je vais vraiment faire le mec et je vais rien faire. »
J'ai mis un jean t-shirt, je suis sur scène.
Exactement,
voilà, ça.
Ça
suffit.
Et puis, t'en as d'autres qui le jouent avec des influences beaucoup plus burlesques. Bah, c'est le cas de Thomas Occhio, typiquement, qui est d'ailleurs dans le court-métrage et qui est un des drag kings assez connus en France. Mais voilà, ça peut être plein de gens, ça peut être parfois des femmes cis qui vont jouer des kings, mais ça peut aussi être des hommes, ça peut, enfin.
Oui, l'idée, c'est la performance du genre.
C'est ça,
souvent par des gens qui ne sont pas de ce genre-là. Genre, par exemple, les drag queens, c'est en majorité des hommes. Mais pas forcément. On peut avoir des personnes trans, des personnes non-binaires et des femmes qui sont drag queens et qui juste, si moi je faisais un spectacle de drag queen, je surjouerais de ouf la féminité, ça resterait une performance quand bien même je suis une femme.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent par le king et le queen parce qu'ils sont en questionnement de genre et le fait de camper certaines normes, il y a des gens qui réalisent à quel point ils peuvent être plus à l'aise dans une performance qu'une autre. C'est-à-dire, je sais pas si moi demain je fais du drag queen ou du drag king et que je me sens particulièrement à l'aise dans un personnage, je me dis peut-être que je peux adopter telle caractéristique de ce personnage dans ma vie et ça m'aidera à être plus confiant ou à me sentir plus en adéquation avec la façon dont j'ai envie que les gens me regardent, par exemple. Et donc il y a beaucoup de gens qui passent par ça et je trouvais que le court-métrage le montrait avec beaucoup de subtilité. C'était, il y avait assez peu de dialogue parce que comme ça se passe dans une soirée, vous avez juste beaucoup de musique, notamment du Kiddy Smile, si ma mémoire est bonne, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Et donc voilà, j'avais trouvé ça très beau et en fait ça enchaînait avec un court-métrage complètement zinzin. Moi j'avais, dans ma tête je me suis dit je pense que je vais aimer King Max et ce sera mon kiff, et en fait j'ai un kiff derrière un kiff.
Je vous avais dit, on en parlait en off avant, que Mathis avait préparé un double kiff en chemin.
Je vois que je viens des gens triches.
Mm-hmm. Oui, excusez-moi, bonsoir. Et ce deuxième court-métrage, ça s'appelle Les démons de Dorothy et c'est zinzin, mais c'est complètement barjo.
This is Dorothy. Dorothy's not the coolest girl in town, nor the cleanest. But she's really nice. She's completely obsessed with old actresses and big boobies. And she puts them in all of her movies. But tonight, her producer will destroy her dreams. Instead of shooting her lesbian horror comedy drama revolutionary film, she has to make more, mainstream pictures. Dorothy is completely devastated, and her demons take advantage to come end her. Be careful, Dorothy! She will live a terrifying journey. Meet ugly demons, pretty demons, and even... Pretty ugly demons.
C'est un court-métrage de 28 minutes réalisé par Alexis Langlois qui en gros ça a commencé mais déjà c'est rock'n'roll, t'as un espèce d'écran avec un rose vraiment bonbon qui s'affiche et t'as un logo kitsch as fuck où ça marque les bikeuses amoureuses. Donc déjà, tu te dis, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et en fait, sur un espèce de fond un peu rose pâle, t'as deux bikeuses qui arrivent et tout sur une moto rose, c'est bling as fuck. Et elles enlèvent leur casque et tu vois deux meufs complètement botoxées et tout, avec des seins énormes à la Lolo Ferrari, qui s'embrassent et il y en a une qui sort une tête du vagin de l'autre et sur cette tête, c'est un homme. Et sur le front de cet homme, c'est marqué suppôt du patriarcat et le balance dans la flotte. Tu fais, qu'est-ce que c'est que ce début de truc?
Ça a l'air d'être débat.
Donc tu vois ce truc qui commence, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Donc tu te rassois, voilà. Et en fait, après, ça devient un peu plus méta parce qu'il coupe net le truc et on se retrouve dans la chambre de la réalisatrice qui n'arrive pas à écrire son histoire et qui a une espèce de productrice.
Oh là là, mise en abîme. Oh là 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 là.
Une productrice qui ne veut pas financer son truc parce que c'est trop queer à chaque fois et les financeurs veulent quelque chose d'un peu plus édulcoré, un peu plus hétéro finalement. Et dans le court-métrage, il y a aussi la mère de la réalisatrice qui est très présente et qui est jouée par Lio, ce qui n'a aucun sens.
Lio la chanteuse.
Voilà.
Le featuring avec Tequila Tex, bien sûr.
Absolument. Et donc, ça n'a aucun sens. Et j'avais trouvé ça extrêmement bien fait parce que du coup, il y a un truc très fantastique qui est très assumé. Ça fait pas du tout cheap parce que je pense qu'il y a du budget derrière.
Et Lio déjà.
Oui. Et il travaille avec des masques, enfin avec du latex et tout. Et du coup, il y a des choses absolument monstrueuses. Je veux pas spoiler, en parler plus. Sachez qu'il est visible
tout comme
sur
Gone,
Arte.
On ne va pas spoiler.
On verra pour Gone. Et, et à la fin, les adultes, ils découvrent qu'en fait, leur enfant... Et donc, ça s'appelle Les Démons de Dorothy et vous pouvez le retrouver sur Arte. Et pour King Max, quand ce sera visible quelque part, eh ben, je vous le ferai suivre d'une manière ou d'une autre. Voilà.
Très bien. On l'ajoutera dans les notes du podcast quand ce
Tout
sera dispo quelque part.
Absolument.
Il y en a déjà un sur deux qui est dispo, donc c'est un kiff honnête.
C'est déjà
un
ça.
Double kiff, et... mais un double kiff honnête.
Voilà, absolument.
Merci Mathis, ça a l'air très cool.
Avec plaisir.
Tout ça, et ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Ça m'a rappelé que fut un temps, je voyais beaucoup de courts-métrages, notamment parce qu'au lycée j'ai fait option cinéma et que du coup il y avait beaucoup de cinéma d'art et d'essai avec des courts-métrages qui passaient avant les films ou même des séances 100% courts-métrages. Et en fait, c'est toujours compliqué d'intéresser les gens aux courts-métrages parce qu'il y a ce côté, c'est pas des vrais films, c'est assez court, mais c'est par là que passent quasiment tous les réalisateurs et réalisatrices. Et il y a des jolies choses qui se font dans du format court, donc ça me donne un peu envie de m'y remettre.
Oui.
Oui,
mais c'est souvent du par hasard en fait, tu tombes souvent dessus par hasard, c'est rare que oui. t'ailles voir un truc...
Bah sauf pour le Nikon Film Festival qui a quand même réhabilité oui. bien fort le court-métrage, et
c'est
après
vrai.
Bien sûr il y a les courts-métrages de youtubeurs et tout, mais ça, comme vous le savez, j'ai 78 ans donc je ne regarde pas YouTube, et j'en ai vu quelques-uns et c'est souvent genre, maybe c'est pour ça que la fiction c'est un métier, mais ça c'est parce que je suis une connasse exigeante. Du coup, j'irai voir sur Arte. Non mais c'est pas toujours.
T'en
présent,
as trop dit ou pas assez là. Donne des noms.
Non mais j'ai même pas de nom, mais juste... Des fois, il y a des youtubeurs qui se lancent dans la fiction d'une façon ou d'une autre, et c'est pas toujours très bien parce que c'est une première fois, c'est pas leur métier à la base. Donc
not all youtubeurs.
Le premier pancake n'est pas toujours réussi, mais not all youtubeurs, il y en a pour qui ça
Absolument.
Fonctionne très bien. Que je ne citerai pas car je ne les connais pas, mais il y en a sûrement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Fibre Tiki qui me fait regarder par en dessous.
J'ajouterais qu'effectivement, le premier pancake et même les 10 premiers sont souvent ratés. Et que n'en veuillez pas à votre éditeur qui vous refuse votre manuscrit parce qu'il pourrait l'accepter.
Et ce serait pire.
Et dans 10 ans, vous direz putain, mais j'ai publié cette merde et vous seriez à la recherche de tous les exemplaires pour les détruire. Voilà.
Est-ce que du vécu, veux-tu passer un appel pour
non, mais parfois,
le premier livre de Fibre Tiki?
Non, mais alors, juste parce que en fait, Aïda a dit moi, je parlais à moi-même d'il y a 5 ans. Et en vrai, moi, il y a 10 ans, j'étais un sale con, quoi. Donc, je suis très content d'avoir...
Je t'aimais déjà bien, mais t'es plus apaisé maintenant.
Ouais. J'ai, enfin, je me sens pas très bon de 5 ans, ou de 3 ans. Donc, je suis très content, en fait, qu'il y ait des tas de choses qui n'aient pas marché, que je doive me battre pour vendre mes sujets, voilà.
Et tes planètes en caramel.
Exactement.
Mais... T'as pas peur en pensant à des trucs comme ça de dire que du coup ce que tu fais maintenant que tu penses être de qualité
mais
comparé
totalement.
À ce que tu faisais il y a 10 ans, tu le détestes dans 10 ans.
Mais d'ailleurs je me dis si le jour où je me trouve meilleur c'est que j'ai baissé en niveau. Si je dis ah putain mais il y a 3 ans j'étais trop bon, c'est que en fait je suis en train de baisser en niveau et c'est plutôt bon signe que je dise bon j'étais quand même un petit con immature sans aucun talent il y a 3 ans. Ce qui fait que j'ai un peu
c'est un peu virulent quand même.
Oui mais au moins ça veut dire que j'ai un peu j'ai un peu gagné en mais il y a 10 ans ouais j'étais vraiment à la ramasse.
Donc. Mais c'est pour ça que les gens de l'Académie française sont les meilleures personnes finalement. Ils parce ont tellement sont... appris, se sont perfectionnés, bonifiés comme le vin, Finkielkraut.
J'arrive même pas à être sarcastrique sur l'Académie française. J'ai juste envie de faire dans le
miroir. En fait, souvent les gens ils disent c'est quoi le secret pour réussir en fiction? En vrai, quand t'as 40 ans, j'ai 40 ans. écouter.
Écoutez bien, c'est le secret de Fibre Tigre.
J'ai déjà dit, dans le même cas, j'ai qu'un secret.
je vais mettre un jingle devant.
À 40
je suis
ans, t'es meilleur qu'à 30 ans et t'es plus cool qu'à 50 ans. Tu vois, c'est vraiment le sweet spot. C'est-à-dire qu'à 50 ans, tu commences à être ringard, tu commences à être fillon. Tu vois, ces gens-là un peu vieux. Tu vois, un mec de 50 ans, il peut pas dire, hé, ma dernière vidéo YouTube, là, je peux encore. C'est le dernier moment dans ma vie où je peux dire, allez sur mon compte YouTube, tu vois.
Sans que ce soit trop gênant pour tout le monde.
Voilà, c'est ça.
Je crois qu'Orelsan encore... a 40 ans. Hein.
Quoi ?
Je crois qu'Orelsan n'a pas loin de 40 ans. Hein.
Oui, il fait une vanne dans son. Alors, je sais plus si c'est dans le docu ou dans son album, genre Scred aime pas qu'ils disent qu'il a quasiment 40 ans parce que c'est pas très Scred. Ouais. Mais bon, c'est la vie, hein. Il est cadre, il habite à Caen, il va faire des enfants, on est ravis pour lui. Merci Mathis pour ce kiff.
Avec plaisir.
Fibre Tigre, notre invité exceptionnel, la guest star de cet épisode. Quel est ton kiff ?
Alors, il y a 5 ans, on était organisé autour d'un podcast qui a disparu pour des raisons sinistres, qui s'appelait Studio 404.
C'était super. Retrouvez dans la description une interview de Lamua qui parlait de Studio 404 en 2012 sur Mademoiselle.
Voilà, avant qu'on explose en vol.
C'était mon premier podcast de toute ma vie.
Lam, il a eu ce projet. Enfin, moi, quand on a monté une société, parce que Studio 404 est un podcast qui fonctionnait avant tous les autres podcasts. C'était un peu le podcast primordial.
En vrai, ouais. Hein.
C'est le premier qui a eu, par exemple, un sponsor historiquement en France. C'était Matla Casper, qu'on vous salue. Et on a commencé à avoir de la thune, et moi je me suis dit, yes, on va être riche, je vais m'acheter une voiture, je suis content. Et là,
mytho.
Et là, il a dit quelque chose qui m'a rendu en colère, mais il avait raison, évidemment. Il a dit, tu sais quoi cet argent ? On va le kiffer, laisse-moi kiffer. Il a dit, on kiffe l'argent, on n'est pas là pour le gagner. Parce qu'on ne gagnera jamais suffisamment d'argent avec le podcast pour en vivre. Donc comme on ne peut pas...
Est-ce qu'en 2021, tu ne dis pas avec le recul, on aurait grave pu... Enfin, je connais des gens qui vivent du podcast, tu vois.
Ouais, alors en fait...
Qui ?
Bah, par exemple, un mec comme Patrick Béja, il fait du podcast toute la journée. Genre, il fait 5 heures de podcast par jour. Il en vit. Le Cozy Corner, ils en vivent aussi, mais voilà. Ou 2 heures de perdu, mais c'est des exceptions. Après, c'est compliqué de vivre du podcast.
2 heures de perdu, ils ont des métiers. C'est pas leur métier.
Oui, en plus, tu vois. Mais bon, ils pourraient. Mais en fait, les sociétés qui vivent du podcast, on peut en parler... font beaucoup de marques blanches, c'est pas très jojo quoi, c'est pas
oui, ils font des trucs
demain,
pour les annonceurs.
Laisse-moi kiffer d'artiste serait nettement moins kiffant parce que vous direz hey, j'ai kiffé ma lessiveuse, voilà.
Donc on adore Darty évidemment.
Voilà. Donc voilà, il a dit avec cet argent, on va l'utiliser pour kiffer. Et plus précisément, et là c'était affreux pour moi, il a dit on va faire des camps déconnectés, c'est-à-dire qu'on va partir en colonie de vacances sans aucun matériel informatique, sans montre, sans rien, pendant 3 jours.
Mais combien... Ah, j'allais dire combien d'heures.
Du coup, 12 minutes, ça bien un quart d'heure sinon.
Ça s'appelle Noël pour moi, c'est horrible.
Donc non, on va pas de montrer tout, c'est mon rêve de faire ça.
De toute façon, on va dans un endroit où il n'y a pas la 3G de base, tu vois. Et donc, tu vas avec ta tante.
Genre le 15e.
T'arrives, ils te fouillent, tu dois mettre ton téléphone dans un endroit sécurisé, tes montres, ta vapoteuse, tout. Voilà,
attends, tu peux pas vapoter ?
T'écoutes pas de Spotify, tu peux fumer si tu veux, mais tu peux pas de trucs électroniques. C'est terminé.
Voilà. Analogique.
Il y en a plus.
Analogique vie. On lit des livres en papier.
Pas de Spotify, mais tu peux venir avec une guitare. Voilà.
On va aller poser des slams.
Pas d'appareil photo, mais tu peux venir
faire des aquarelles.
Ouais, exactement. Il y a des gens qui font ça.
Mais c'est Amélie Nothomb qui a inventé ce truc-là, non ? C'est des gens avec des chapeaux en tout cas. Voilà.
Sûrement des gens avec des chapeaux.
On fait ça
toujours les gens avec
depuis
des chapeaux.
On fait ça 2 fois par an hors pandémie mondiale.
Ouais.
Et en été où on est sous la tente et en hiver où on est dans un petit chalet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Voilà, et on était 20, maintenant on est plutôt 90.
C'est qui on du coup ? Qui vient à ce
Alors c'est la commu X404, aujourd'hui qualité, et aujourd'hui il faut pas se leurrer Game of Roll. Ce qui fait que dans le dernier camp par exemple, il y a eu 4 ateliers jeux de rôle. Quoi. Bref,
ça
évolue beaucoup. Voilà. Et puis en plus, on en a commencé il y a 5 ans. Il y a 5 ans c'était bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 20 ans, je suis graphiste. Et maintenant c'est bonjour, je m'appelle Edouard, j'ai 40 ans et je suis banquier. Donc, ça évolue même au niveau de...
Comment vois-tu cette droitisation de ta communauté fibrotique finalement ?
Ouais, non, on vieillit tous. Alors c'est vraiment pas la droite.
Quand on vieillit, on devient de droite. En fait, Antoine graphiste est devenu
banquier. Mais oui, il a changé
de nom et de métier, c'est tout.
Non, ils ont vieilli, ils ont pris de l'argent et ils sont devenus de droite fatalement. C'est comme ça, c'est la vie. Vous-même, quand vous serez riche, vous verrez.
C'est compliqué d'être de gauche. On est de gauche jusqu'à ce qu'on soit riche. Il n'y a pas trop de risques.
On n'a pas pris la voie royale.
Ça va.
Voilà. Et donc, effectivement, cette perspective, elle est atroce. Et en fait, elle est plutôt bien pour deux raisons. C'est que d'une part, t'es obligé de parler aux gens parce qu'il n'y a pas Twitter. C'est-à-dire que si t'es en train de parler avec un mec, il est chiant, tu peux pas sortir ton Twitter et t'es obligé de l'écouter. Tu vois. Et deuxième truc, quand tu parles avec un mec, ou une femme d'ailleurs, puisqu'on on a un souci de parité et de représentativité, et y compris au niveau des nouveaux, donc n'hésitez pas à vous approcher de la commu.
On mettra les liens dans la description.
Si par exemple, je discute avec Mimi, et que je lui dis non mais la Terre elle est plate, elle peut pas sortir Wikipédia en disant regarde la Terre elle est ronde, ok, parce qu'il n'y a pas de Wikipédia, donc les discussions elles durent des heures et des heures, il n'y a jamais de source, tu vois.
Heureusement que je pourrais grâce à mes capacités en physique calculer la courbe de l'horizon au fil des heures et te dire chabite, voilà. Exactement c'est rond.
Bon, j'avais l'article qu'il y a beaucoup d'alcool et surtout il n'y a pas d'heure, et ça l'heure c'est vivre sans heure, c'est très étrange, parce que le premier jour ça va. Mais le dernier jour, pour moi, la moitié des gens se sont levés à 14h, j'en suis pas certain. Et à un moment, j'étais persuadé qu'il était 3h du mat alors qu'il était 21h. Et donc vraiment, on perd totalement la notion du temps. Et je sais qu'il y a un jour où j'ai fait 5 siestes.
Parce que s'appelle un dimanche chez moi. Mais okay.
Non, mais je ne voyais plus la fin. C'est-à-dire, je me suis réveillé et en fait, il devait être 4h du matin. Et je me dis, bon, oh, tiens, il fait encore nuit, c'est pas grave. Et je me suis recouché, je me suis relevé. Tiens, les gens ont mangé. Voilà, bref. Donc, c'est assez perturbant.
Mais du coup, est-ce qu'il y a un peu tout le temps des gens réveillés? Genre, si tu te réveilles à 4 du mat, il y a toujours au moins une ou deux personnes au coin du feu.
Bah, l'été, l'hiver, il y a toujours un feu de cheminée ou un feu. Il y a toujours quelqu'un. Parce qu'en fait, on perd le. En fait, naturellement, on ne fait pas des nuits complètes. Parce qu'aujourd'hui, tu te réveilles à 3h du mat, tu dis putain, les 3h du mat, tu te rendors. Là, quand t'as pas l'heure, bah, tu te réveilles et t'as pas sommeil, tu vois.
Mais je crois savoir, et en même temps, je suis là. Je pense que ma source est Reddit, donc à vérifier chez vous. mais c'est peut-être le subreddit dont j'avais parlé dans Laisse-moi kiffer, Ask Historians, qui est un subreddit avec des vrais historiens qui font très attention à sourcer leurs trucs. Il me semble qu'au Moyen-Âge et au temps où il n'y avait pas les réveils matins et les heures de travail et où on travaillait de façon beaucoup plus en lien avec le soleil et tout, les gens faisaient des nuits en deux parties, où souvent ils s'endormaient, ils faisaient nuit et tout, et ils se réveillaient au milieu de la nuit, ils faisaient un petit moment de vie commune, de vie sociale, ils remangeaient un bout, potentiellement ils faisaient l'amour, ils allaient pisser et tout, et ensuite ils se recouchaient. Et c'était un truc, une nuit en deux parties, du coup c'était présenté un peu comme peut-être que on n'est pas forcément fait pour dormir 8 heures d'affilée et ensuite se lever pour aller servir le capitalisme.
Et manger 3
peut-être
fois par jour.
Peut-être que notre rythme naturel, c'est pas ça.
Ça nous arrivait de nous lever, on n'a pas hyper faim parce qu'on s'est goinfré la veille, et ben on va se promener, on revient de promenade, le soleil s'est couché, on a oublié de manger, tu vois. Et en fait, on le vit bien, tu vois. Donc vivre sans montre, c'est très étrange, voilà. Mais c'est un bon kiff. Alors c'est un kiff global, mais j'aimerais bien faire un anti-kiff à titre exceptionnel. C'est qu'il y a eu 2 ans de pandémie, et j'avais trop envie de revoir, de vivre cette expérience, de retrouver des gens et de discuter tout ça. On arrive là-bas, et en fait, tu vois personne pendant 2 ans, et tout d'un coup, t'es avec 70 personnes dans un endroit clos, tu vois.
C'est hyper dur.
Ça a été affreux, et pas que pour moi. C'est-à-dire, il y a des gens, le premier soir, ils ont pété les plombs. Il y a des gens, ils sont roulés en boule dans le lit, et ils ont dit, j'ai beaucoup de mal. Et moi, je me suis dit, il faut que... Enfin, j'en pouvais plus, quoi. Je disais, mais je ne supporte plus les humains, c'est insupportable. Ils me détestent, je les déteste, je ne suis pas fait pour cette vie, tout ça. Après, dès le lendemain, je me suis beaucoup détendu et j'ai commencé à kiffer. Mais effectivement, je crois que... Enfin, c'est quelque chose que je me dis souvent en ce moment, c'est qu'on est un peu en état de sidération. On ne se rend pas compte de la pandémie et de ce qu'elle va entraîner pour nous. C'est-à-dire, on a subi les conséquences, mais on n'a pas encore fait notre psychothérapie de tout ça. Et à un moment, je pense que beaucoup de gens vont se mettre naturellement en PLS et ils vont dire « Ah, je suis déprimé ou je suis en burn-out, je ne comprends pas. » Et en fait, c'est juste « Non, on a vécu 2 ans de pandémie, tous tes proches sont morts. » À un moment, voilà, et c'est ça. Il faut... Non, mais...
De 0 à 1000, extrêmement vite.
Non, le podcast du kiff.
Mais n'oubliez pas de servir le capitalisme, tu vois. Donc,
évidemment. Voilà. Non, mais oui, il y a un côté très bizarre de. On a vécu un truc à l'échelle mondiale qui est un bouleversement total, plus les conséquences très réelles de. Effectivement, il y a des gens qui sont morts, plus tous les gens qui ont pu perdre leur job, etc., ou se retrouver coincés dans des situations compliquées. Et c'est un peu genre, on est censé reprendre la vie comme si de rien n'était et continuer se remettre à aller au boulot et à prendre le métro le matin et aller au resto et avoir des gens dans des espaces clos. Et c'est un peu genre. On peut pas se poser 2 secondes et intégrer ce qui vient de nous arriver. Non, on ne peut pas, car le capitalisme n'attend pas.
Mais le fromage de chèvre existe. Voilà, donc si vous alliez mal à ce stade du podcast, rappelez-vous, le fromage de chèvre existe. Voilà.
Tout à fait.
Dernier point sur le camp, sur la vie amoureuse, on va dire.
Ça se chope.
Il y a des couples qui se forment, des couples durables. Voilà.
Moi, je suis là, ça se chope. Et puis, Bretagne, elle est là. L'amour existe, d'accord.
Voilà, donc c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens aussi, comme moi d'ailleurs, et je salue ma femme au passage, que j'aime beaucoup, qui vont en demi-couple. Alors, ça ne veut pas dire que...
Ce qui se passe au camp, reste au camp.
Non, alors ça, c'est ce qu'on dit, mais ça ne veut pas dire que... Voilà. Mais c'est vrai que tu vas rencontrer des gens. Tu vas rencontrer des gens. Et si tu es avec une personne de ta famille... C'est compliqué parce que tu as tendance à rester avec ta personne dont tu es très proche. Et du coup, l'expérience est moins forte. Voilà. Mais, et puis, il y a les gens qui vont seuls et puis ils rencontrent l'amour d'une façon ou d'une autre. Alors, je ne dis pas que ça arrive, qu'il y a 10 couples qui se forment par camp, mais ça arrive une ou deux fois et nous, on est assez contents. Il y aura peut-être un peu le premier petit bébé camp. Alors, si ça vous intéresse, on les fait le 1er ou le 8 mai. Et on les fait aussi... enfin, le 1er ou le 8 mai, on choisit. Ou le 11 novembre. Voilà,
et comment on peut... Il faut aller sur votre Discord pour avoir les infos ?
Oui, voilà, sur le Discord de qualité, QALITER. Le plus tôt, c'est le mieux, sachant que si vous êtes nouveau, c'est-à-dire que vous découvrez ça, il y a des places qui sont réservées pour vous. Voilà. Et si vous faites partie d'une minorité, encore plus. Voilà.
Oh, donc j'aurai ma place en tant que double minorité ainsi que nouvelle du camp.
Alors, si tu es hétérosexuel, tu n'es pas dans l'ultime minorité ?
Je suis une femme racisée, donc double minorité.
D'accord.
Mais okay. Extrêmement hétéro, désolé, on ne peut pas tout avoir.
Non, mais écoute, c'est très bien. Non, non, mais après, je ne connais pas...
Je ne joue pas au jeu des privilèges avec moi, Fibre Tigre, je gagne.
Ah non, alors là, moi, je suis installé dans mes privilèges. Et genre, ça aussi, je devrais faire peut-être. Mon kiff, c'est les privilèges. Mais,
Pour la prochaine fois que tu viens, on voilà. Fera ça sur Twitch, les gens seront ravis. Avec Aïda en face, ça va être très bien.
Bon, alors moi, au niveau de mon emploi... Non, mais c'est vrai que... Je sais pas, alors, juste une petite parenthèse sur le kiff des privilèges. C'est que...
Tu es en train de faire un triple kiff.
Des kiffception, j'adore.
Non, mais juste un truc, c'est que à un moment, les policiers ont commencé à mal me parler. C'était quand il y avait la grève des Gilets jaunes. Alors que moi, j'ai un nom, c'est pas Charles-Édouard, mais quasi, tu vois. Et je me suis dit, s'ils commencent à me parler mal à moi, alors qu'est-ce que ça doit être pour tous les autres, quoi, tu vois.
Bah, en vrai, c'était le truc des Gilets jaunes, c'est ouais. Que ça a fait comprendre à tout le monde que la violence policière existe parce ouais. Qu'elle s'exprimait contre des personnes qui n'étaient pas traditionnellement visées par cette ouais. Violence. Dans des endroits qui n'étaient pas le lieu, mais en fait, dans les banlieues et pour les personnes racisées, cette violence policière, elle était déjà ouais. Très réelle et ouais, très palpable. Donc c'est un peu genre, ah, maintenant c'est dans le 10e arrondissement parisien sur des gens qui ressemblent à Fibre Tigre, du ouais. Coup on va en parler. Quoi.
Voilà, je me suis dit, si moi ils me tapent dessus, alors vraiment, qu'est-ce qu'ils doivent taper sur tout le monde, là, il n'y a plus de trucs. Voilà, bon, bah, écoutez, merci pour ce triple kiff. Et sinon, j'ai peint un tableau un peu triste, mais le camp, c'est très bien, venez.
En vrai, ça a l'air trop cool. Et alors, question. Ouais. Alors déjà, combien ça coûte?
Alors, ça coûte... Alors justement, là encore, c'est un sujet de Discord parce que l'âme, il veut que ce soit le moins cher possible. Et moi, j'ai 40 ans, je suis riche, j'aimerais bien faire un camp
de luxe.
Toi, t'es
Edouard, 40 ans, banquier, on prend un spa.
Ah ouais,
c'est ça,
mais en plus, il y a des banquiers, je dis, oh, tu sais quoi, on pourrait se faire un camp à Euro Disney, tu vois, et à Disneyland Paris, excusez-moi. Mais non, c'est 100 € par personne, 100 € par personne pour 3 jours.
Ce qui est plutôt très
ouais.
Réglo.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, question, pour les gens comme moi qui se tâtent à y aller, enfin, je me tâte pas à y aller, ça fait 2 ans que je dois y aller, mais... du coco le Covid. Est-ce que tu me conseilles d'y aller toute seule, sachant que, bon, je te connais déjà, donc c'est un peu triché, mais d'y aller toute seule en mode comme ça, je rencontre... En fait, je suis partagée sur... J'ai envie d'y aller toute seule pour être sûre de parler à des gens et ne pas traîner qu'avec la personne que j'emmène. Et en même temps, j'ai envie de le vivre avec des personnes que j'aime déjà, tu vois, parce que ça a l'air d'être une expérience fun à partager.
Bah, toi de voir, sachant que si tu viens seul et que c'est intimidant, c'est sûr, très rapidement, en fait, on va te demander de te présenter devant tout le monde, c'est un petit peu intimidant, bonjour, je m'appelle Mimi, je fais ça, et ensuite, tu vas te retrouver dans une équipe, parce qu'il faut quand même faire à manger et la vaisselle, et en fait, très rapidement, en fait, tu vas avoir un débat sur les privilèges, par exemple, tu vas t'incruster, et tu vas casser des têtes aux gens, et voilà, ça va vite se faire, et en fait, l'air de rien, c'est la commu parisienne, qui discute un peu, qui aime les podcasts, voilà, donc
qui aime Game of Thrones, qui ouais, j'espère voilà, adore ça. Mademoiselle.
C'est ça, voilà. Okay. Non, Mademoiselle, ils connaissent. Donc...
Oui, non, mais ça marche pour moi. Mais tu vois, pour les gens qui se tâtent à y aller, est-ce que tu recommanderais d'y aller tout seul la première fois ou d'y aller accompagné?
En fait, quand je disais des demi-couples, le risque, c'est que même si vous êtes hétérosexuel et vous y allez avec votre meilleure pote fille, en fait, vous avez tendance à rester entre filles et le soir, vous couchez ensemble parce que c'est des dortoirs, par exemple. Vous lisez, vous bouquinez ensemble, tout ça. Et effectivement, vous faites pas le truc de mixité, le fait de rencontrer d'autres personnes. Et effectivement, vous allez pas faire forcément, vous n'allez pas rencontrer ce gars hyper ennuyeux, mais vous allez aussi ne pas rencontrer ce gars hyper passionnant et trop bien, quoi. Voilà. Donc, moi, je vis l'aventure solitaire personnellement et je la trouve très bien.
Je pense que j'emmènerai ma pote célib et je lui dirai va parler aux garçons maintenant. Moi, je vais aller parler jeu de rôle avec Fibre Tigre et couper des carottes.
Voilà, volontiers.
Mais après, c'est bien d'avoir quelqu'un aussi. Enfin, rien que pour veiller à ce que ce soit safe, enfin, t'es avec plein d'inconnus, je me mets aussi à la place de.
Ça, je pense que c'est alors, plutôt ça, encadré.
On connaît pas charte du tout, de la safitude.
Ah, bah voilà, trop bien.
Est-ce qu'elle s'appelle vraiment charte de la safitude?
Non, mais c'est charte. Alors, c'est... D'ailleurs, le problème de la charte, je vais pas en parler, ça a soulevé des tensions. Parce qu'en gros, cette année, on a fait une charte en mode pas de propos sexistes, tu te sens mal, tu vas parler à telle personne, tout ça, voilà. Mmh. Et en gros, il y a des gens, dont moi, parce que je suis un sale con, j'ai dit on n'a pas besoin de cette charte, parce que c'est jamais arrivé. Et en plus, ça sous-entend qu'il y a eu des problèmes alors qu'il n'y en a jamais eu. Et en vrai, j'ai réfléchi, j'ai discuté, puisque c'est le lieu des débats, et j'ai dit mais effectivement, c'est très bien d'avoir cette charte. Point final. On avance. Voilà. Mais très difficile de se déconstruire quand on a mon âge.
Mais tu y arrives si bien. Merci Fibre Tigre.
Merci.
Ça a l'air ouf comme expérience.
Mais on fera un séminaire Mademoiselle un jour au camp de qualité. On arrive avant, on est que de la meuf.
Mais vous devriez faire peut-être avec votre commu, la commu laisse-moi kiffer un camp.
En vrai, ce serait cool de faire des. Mais bon, on n'a pas encore réussi à reprendre les événements Mademoiselle IRL, à part la fête qu'on a fait en août à Paris pour fêter le nouveau site, qui était très cool. Si on y arrive, moi c'est sur ma liste de ce serait cool de tenter ce genre de format parce que donc on a les gros stuff et les one man show qui sont des soirées karaoké géantes et des soirées stand-up et musique, mais du coup c'est pas forcément les endroits où t'apprends à connaître les gens, c'est plutôt tu regardes des trucs, tu danses, tu bois des coups, tu cries, mais t'as pas le temps de papoter au coin du feu.
J'ai laissé JDR, mais enfin vous êtes 20, vous voulez une belle maison au Portugal face à la mer, et ça coûte ça vous coûtera 100 euros par personne, voilà.
On en parlera à Darty, ma foi. Voilà. Merci Fibre Tigre.
Merci.
Aïda, what is your kiff?
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je suis très perturbée par toute cette histoire de vivre sans montre et sans avoir l'heure. J'arrête pas d'y penser depuis que tu l'as mentionné. Parce que moi, c'est ma phobie. Des fois, je me réveille au milieu de la nuit et j'ai besoin de savoir quelle heure il est. Genre, pareil. Je peux pas me rendormir tant que j'ai pas vu l'heure. Je cherche mon portable et tout. Ça me fait
j'adorerais
très perturbée.
J'adorerais être en couple avec toi et je te ferai des farces là-dessus de ouf. Je te dirais, tu sais que chaque fois que tu checkes l'heure, tu risques d'enlever ton réveil. Bonne nuit.
Non, tu changerais l'heure.
Ah non.
Tu modifies l'heure de son tel, du coup tu te réveilles, il est 7h, et après tu te réveilles, il est 4h, et t'es là quoi?
Ah non, mais ça, mais vraiment, moi, ça me fait vriller.
Quand t'as un peu sommeil, je te dirais, tu sais que le passage à l'heure d'été, ça se fait pas automatiquement sur les nouveaux téléphones.
Arrête de dire des trucs comme ça.
T'as pendu, elle est là.
J'ai trop peur.
D'accord, donc un petit côté contrôle fric de la gestion du temps que je découvre
et
chez toi.
C'est une obsession qui est telle que vraiment de manière super pavlovienne, je me suis un peu rentré une espèce d'horloge dans la tête où je peux deviner l'heure qu'il est en permanence à force de me poser ces questions.
Et on ira au camp et on testera en temps réel. Est-ce que tu peux vraiment deviner l'heure qu'il est en permanence sans montre, sans téléphone?
Au troisième jour, c'est mort, mais ouais. C'est mort.
C'est sûr et certain. Mais du coup, je suis super curieuse de l'effet que ça me ferait vu que j'ai cette obsession-là. Je me dis, mais au bout de trois jours, je deviendrai une nouvelle personne. Tu vois, je me découvrirai des nouvelles manières d'être. Bref, un jour, peut-être, ce sera mon kiff.
On espère.
De casser toutes les horloges de chez moi. Mais donc, mon kiff. Mon kiff d'aujourd'hui, j'ai longuement réfléchi à quel allait être ce kiff parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie ces derniers temps. Plein de trucs en quelques jours.
Amazing.
Notamment le fait que j'ai posé deux jours de congé, ce qui était vachement bien. Oui. Je suis allée voir Lalaïs, mon idole, en concert, mais j'en ai déjà parlé des heures dans ce podcast.
N'hésitez pas à follow Aïtremadea sur Instagram, car il y avait des stories de Lalaïs.
Absolument, c'était un moment merveilleux. Bref, voilà, j'ai fait plein de trucs dont je vous épargnerai les détails. J'ai payé 500 balles pour dormir à côté d'un morse, c'est incroyable, mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Pas
de
non.
À côté d'un morse.
Change de qui?
D'un morse.
D'un morse.
Un morse.
Un morse.
Non, il faut que tu... Je suis désolée, on va faire... Cet épisode va être long, ok? Bonjour. Quid?
Je voulais vraiment... Ouais, un morse vivant. Mais il y avait une vitre entre nous quand même.
Un morse vivant.
Ah, c'est pas genre les zoos et les parcs naturels où tu peux dormir dans l'enclos, mais protégé évidemment des animaux. Je veux trop faire ça. Il y a un truc avec des loups dans les Pyrénées. Je veux trop dormir dans les...
Même
non, il y a un truc avec des ours. Je veux dormir dans l'enclos des ours.
Oh mon Dieu, mais même avec un Bernard Lermite, je refuse, quoi.
Écoute, c'était terrifiant. Je m'attendais à ce que ce soit trop bien. Et en fait, j'avais juste trop peur. Un morse, c'est super gros.
Et bien sûr que c'est gros.
Il se frottait à la fenêtre.
Mais qu'est-ce que t'attendais?
Il me faut un peu de contexte.
Elle se réveillait à 11h du soir et en fait il y avait le morse qui la fixait sans bouger.
Et tu lui disais, il est quelle heure?
En fait, j'ai juste fait une paralysie du sommeil. Tout s'explique.
Alors, vraiment, le titre de cet épisode va être « J'ai payé 500 euros pour dormir avec un morse ». Et le
ce n'est
pire,
pas
mon... c'est que c'est vrai.
Et ce
non, mais c'est quoi le contexte? Est-ce que t'as été payé 500 balles pour un morse sans savoir la taille que fait un morse?
Non, mais tu bosses avec McFly et Carlito, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette vie, genre?
Je m'insulte pas, Mathis. Ok, on va faire un épisode long. En vrai, je m'étais dit peut-être que je vais garder ça pour genre un Twitch ou un truc comme ça.
Ah, si tu veux. Alors, si tu veux, on tease et on dit que le 15, que j'ai, oui, le 15 décembre, c'est Laisse-moi kiffer sur Twitch. Et je peux vous garantir que Aïda parlera... ah non, attends. Oui, si c'est bon.
Ceci dit, j'ai un truc improbable à confier aussi. On avait dit qu'on en parlerait sur Twitch, donc on a déjà
très bien.
Deux
ok, rendez-vous le 15 décembre sur Twitch pour tous les bails de Laisse-moi kiffer qu'on vous aura teasé. Je compte sur vous pour le noter, car j'aurai personnellement... oubliez, sinon, cher LM Crado, n'hésitez pas, dans le chat, vous venez, vous nous dites « C'est quoi l'histoire du morse ?» Et comme ça, on saura. Du coup, passons.
En fait, j'ai trop peur que ce soit un kiff problématique, c'est des trucs dont j'ai un peu honte, tu vois, je suis là.
Parce qu'il y a le truc de zoo et tout.
Bah ouais, un peu, tu vois, donc je suis en mode purée.
On se renseignera, on verra. Du coup,
je ferai mes recherches.
Passons bref. Sur le morse.
Et j'avais trop envie de lâcher ça et de passer à autre chose.
C'est, tu me connais, c'est pas possible, je vais te chercher, vraiment, c'est pas possible.
Mimi est journaliste. Elle fait bien son travail. C'est Élise Lucène, te lâche pas.
Donc mon kiff, ce n'est pas toutes ces choses. Mon kiff, c'est la raison pour laquelle j'ai la gueule de bois aujourd'hui. Et ce sont, puisque
Ginto.
C'est une chose.
Mon kiff, c'est
le Ginto. Non, mon kiff, c'est les soirées fado. Parce que hier, je suis allée dans un endroit qui s'appelle Porto Loggia. Qui est une espèce d'épicerie fine, un endroit à Paris qui est pas très loin de nos bureaux. C'est un petit endroit où on vend de la très bonne bouffe portugaise, plein de très bons fromages, plein de très bonnes charcuteries, et où on vend du très très bon Porto, notamment parce que le propriétaire de cet endroit a aussi des exploitations de Porto au Portugal. Bref, c'est délicieux, je vais pas vous faire l'histoire du Porto parce que je la connais pas. Mais en tout cas, tout est extrêmement bon, et surtout régulièrement, deux fois par mois, ils organisent des soirées fado.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Le fado, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un genre musical portugais.
J'allais dire une danse, franchement.
Méga triste.
Ouais.
Ah, un peu des lamentations, quoi.
Bah, en fait, c'est... Alors, j'ai appris plein de choses hier soir, du coup, je me rebrand à nouveau dans ce podcast. Aujourd'hui, je suis Aïda, 100% des informations.
Incroyable !
Le fado est un genre musical né il y a 200 ans dans les ports du Portugal. Et c'est un genre musical qui a été chanté en premier lieu dans les bordels. C'était souvent dans les bordels, c'était des prostituées qui chantaient beaucoup, plein de gens qui faisaient des petits boulots à droite à gauche. Et c'est un genre musical où, en gros, souvent, t'as deux personnes qui jouent de la guitare. T'as une personne qui joue d'une guitare qu'on connaît tous et une personne qui joue de la guitare portugaise, qui est une guitare toute ronde qui ressemble un peu à une mandoline et qui a plein de cordes. Et une personne qui chante. Y a beaucoup, beaucoup d'émotions dans le fado, mais il y a des trucs joyeux, c'est pas forcément super triste. Après, c'est toujours un peu nostalgique, le fado, c'est...
C'est méga triste.
En fait, arrête de mansplainer le fado, elle a été à un atelier
non, mais
fado.
Elle dit elle vient de percuter que si elle dit que c'est hyper triste, ça va pas être un kiff. Donc elle fait du damage control, mais en vrai le fado c'est indéfendable.
La musique c'est un kiff, hein, c'est la seule musique que j'écoute, donc je vous ferai un kiff musique déprimante un jour.
On dirait quand les moments où j'essaie de faire croire aux gens que je fais mais regarde celui-là il est positif, c'est lorsque les gens ils me regardent non vraiment pas.
C'est comme dire que Mylène Farmer c'est positif de temps en temps, tu vois.
Attends, bah moi, je suis libertine, je suis une catin.
Il y a des couleurs, hein. Elle a les cheveux rouges.
Je pense que c'est limite du fado puisqu'on est dans un bordel, tu vois.
Yes. Le fado, si vous voyez pas ce que c'est, imaginez Mylène Farmer, mais en portugais. Et c'est exactement ça, j'ai tout compris au fado.
J'espère que Mylène Farmer écoute ce podcast.
Et on l'embrasse. Mylène, tu m'appelles, tu viens. C'est
LM Crado, finalement.
Slide dans nos DM, tu es invitée, Mylène, dans Laisse-moi kiffer.
Un message bourré.
Mon rêve. Oh là là.
Je vais pleurer en faisant l'édition de ce podcast.
Je vais couper rien, balance-le comme ça, c'est très bien.
Donc, le fado. Qu'est-ce que j'ai donné comme information ?
Il y a de la guitare, il y a de la guitare, ça vient des bordels.
Il y a des gens qui chantent. Il y a effectivement un aspect très nostalgique et très mélancolique dans le fado, mais parfois il y a aussi des fados énergiques parce que c'est des chants populaires en fait. Donc c'est parfois fibre, fait non de la tête parce qu'il refuse de me croire. J'y étais hier, j'ai entendu des chansons
okay,
dedans,
mais bien sûr.
Peut-être que c'est parce que je comprenais pas les paroles car je ne parle pas portugais. Mais en tout cas, il y avait une énergie qui avait l'air positive. Mais oui, en fait, en portugais, il y a un mot qui ne se traduit pas forcément en français, qui est saudade. Et en fait, saudade, c'est un mot qui transmet une émotion qui est un peu proche de la nostalgie. C'est un genre de spleen.
Je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est, le fado. Est-ce que Cesaria Evora, ça rentre là-dedans?
Non, Cesaria Evora, c'est pas vraiment du fado.
Ok.
Mais après...
J'aurais tenté.
Le rêve, c'était la seule que j'avais aussi, donc c'est pas ça.
Ouais, si vous connaissez pas le fado et que vous voulez en écouter en mode contemporain, il y a Amalia Rodriguez qui est très très connue, qui est une espèce de star mondiale du fado. Il y a Marisa aussi qui en fait. Bref, c'est un truc qui est un chant populaire portugais très très beau. Et donc, quand tu le vois en vrai, moi j'en avais déjà écouté avant sur mon outil musical, sur mon téléphone, machin.
Tu peux dire Spotify, hein, on peut dire l'application musicale. Sur mon lecteur digital.
Bien sûr, ma machine à musique. Et en fait, le voir en vrai, c'est un truc qui est hyper puissant et hyper émouvant. Parce que le fado, c'est un genre musical où en fait, t'alternes vachement entre des chants très doux, qui vont parfois être chantés un peu doucement avec le bout des lèvres, et des chants qui sont très très intenses. C'est vraiment 2 secondes 3 sur l'autoroute. Tu vois, tu passes d'un moment où la personne est là, non, non, non. Et d'un seul coup, bam, elle va presque crier, chanter super fort. Et donc, il y a sa voix qui va emplir une pièce entière avec une puissance émotionnelle qui est assez ouf. Vraiment, c'est hyper beau. Moi, j'ai passé la soirée à avoir des frissons partout et à me dire « Ah non, ça y est, j'ai le Covid et tout. » Non, j'avais juste énormément d'émotions.
Est-ce le Covid ou l'émotion? En plus, vraiment ma tagline 2020-2021.
Cela dit, elle tousse beaucoup aujourd'hui. Hein.
J'ai parlé de fatiguée. Bien,
nous sommes tous testés négatifs.
Et voilà, enfin, t'as tout cet aspect très très intense et très émotionnel dans le fado. Il y a un truc culturel qui est très fort chez les Portugais autour du fado et chez plein d'autres peuples, parce qu'en vrai, vu que c'est une musique portuaire, le fado s'est inspiré aussi de choses qui viennent du Brésil, du Cap-Vert. Enfin voilà, c'est une musique qui est très métissée par essence. Et en fait, c'est donc cette soirée-là en l'occurrence qui a lieu à Porto Lugia. C'est un truc qui a lieu dans un tout petit endroit. Donc en fait, on était à tout péter une 30aine de personnes, à la lumière de la bougie, en train de boire du trop bon Porto et de manger de la petite charcuterie et tout.
La best life déjà. Hein.
Au milieu de la pièce, t'as une personne qui va chanter des trucs de ouf, qui va te faire passer des émotions de ouf. Moi, j'ai tout le temps envie de pleurer quand je regarde. Là, il s'avère que j'étais avec mon mec et la famille de mon mec, donc je vais peut-être pas pleurer devant ma belle-mère. J'ai essayé de me retenir, mais j'en avais très envie. Je bégaye car je suis fatiguée. Car
et émue.
Ensuite, j'ai bu beaucoup de Porto et maintenant j'ai mal au crâne.
C'est peut-être le Covid.
Mais non, je suis testée négative, Mathis.
Je t'ai fait douter. J'adore, moi, c'est voir je doute une microseconde en mode est-ce que c'est le Covid?
Bon, il est 19h, là, on avance.
Et ouais, non, c'est vraiment un genre musical qui est très beau et c'est un endroit surtout que je recommande si vous voulez aller voir du fado et kiffer aussi un peu la culture portugaise. En vrai, qui est peu mise en valeur, je trouve, en France en général, alors que pourtant, il y a plein de grosses communautés portugaises. Et en fait, c'est trop bien, c'est un espèce d'énorme kiff. En plus, ce qui est ouf avec le fado, c'est qu'en fait, les chanteurs et chanteuses et les musiciens ne se connaissent pas toujours. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé avec des artistes qui jouaient ensemble pour la première fois. Et en gros, c'est un truc où tu as un répertoire de chansons immense et où en fait, l'artiste arrive vers les joueurs de guitare et leur dit « Bah voilà, moi, je voudrais chanter sur l'air de telle chanson ». Les mecs qui connaissent tout par cœur, ils n'ont pas de partition, ils sont en mode « Ouais, bien sûr, je te joue l'air et tout ». Et la personne chante les paroles qu'elle veut par-dessus. Donc parfois, elle chante le texte original, parfois, elle chante des choses qu'elle a écrites ou qu'il a écrites elle-même. Et c'est hallucinant de performance. Enfin, t'as des mecs avec des guitares à 12 cordes qui sont là, qui font des trucs de ouf.
Fais bien la guitare à 12 cordes.
Je vous rappelle que je suis imitatrice de bruit, professionnelle aussi. Et avec voilà, quelqu'un qui te donne des émotions, qui te fait rire, qui te fait pleurer, il y a plein d'énergie, tout ça dans une toute petite pièce. Si vous voulez pécho quelqu'un, emmenez-le là-bas, ça marchera très bien. Et ouais, non, vraiment, Porto Lugia, bel endroit, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à écouter du fado en vrai.
Ça donne très envie.
Bah, je pense que Mimi, quand tu as dit porte aux charcuteries,
c'était un peu plus un argument.
Elle a cessé de penser.
La musique et les émotions. Mais en vrai, je n'écoute pas de musique, mais quand j'en écoute, elle est forcément déprimante. Donc peut-être que le fado, c'est ce qu'il me faut en termes de musique portugaise.
Et il y a du fromage.
Il y a du fromage. Voilà. Et les gens sont très sympas.
Et j'adore le Porto car j'ai été à Porto et j'ai fait les caves de Porto. Et j'ai ramené du Porto à tout le monde et j'ai bu beaucoup de Porto. C'était super.
Tu peux pas les refaire, un de ces quatre? Comme ça, tu rapportes une petite bouteille.
Ah oui, oui, mais on fera le séminaire, bien sûr, le Camp Mademoiselle à Porto.
Mais voilà. J'aimerais bien qu'on avec m'explique le délire d'écouter de la musique triste. Je comprends pas.
C'est vrai?
Bah oui, parce qu'en fait, la musique, si t'es empathique, ce que je souhaite que soyez, que t'écoutes de la musique triste, tu deviens triste. Et vous voulez pas être triste.
Mais t'as jamais vu un film triste ou lu un livre triste?
Bah ouais, ça me rend triste et j'aime pas ça. Bah, je déteste ça.
Mais moi, c'est le processus inverse. C'est que l'émotion, elle est déjà là et je vais au bout de mon émotion.
Très bien. Mais moi, j'aime bien parce que je pense que ça me. Comment dire ça? C'est un peu comme...
Pleurer.
Est-ce que cette
comme...
métaphore fonctionne?
Tu pleures à distance.
C'est un peu comme la masturbation pour la libido, tu vois. Genre, c'est déjà là, t'es déjà un peu triste, mais ça te permet, ça enhance, ça améliore, ça rend plus intense ta tristesse, et ça lui donne un cadre et ça l'amplifie. Et du coup, tu peux la vivre pleinement, et après,
coup,
je trouve que tu te sens... Bah, des fois.
Ouais.
Mais pas tout le temps, parce que si je pleurais dès que j'écoutais de la musique triste, ce serait long.
C'est
et du coup,
grave.
Ça te fait.
Souvent, moi, en écoutant. Enfin, j'écoute du Portichette, donc ça aide peut-être pas, mais.
Oui, c'est vrai. Mais moi, pour le coup, j'en écoute pas très souvent. Mais quand j'en écoute, je ne pleure pas, mais je vis les émotions.
Ouais.
Du coup, c'est un peu une porte ouverte vers les émotions. Et toutes les émotions sont cool, même les négatives, tu vois.
Et puis, il y a un côté cathartique aussi, de se dire que. C'est un peu ce que tu dis, Mimi, t'as un côté contrôle. T'as un espace où ces trucs, bah voilà, la tristesse, c'est pas une émotion qui est toujours agréable à ressentir, même si je pense qu'elle peut l'être. Tu la ranges dans un coin et puis d'un seul coup, tu te retrouves dans un cadre où tu peux l'exprimer différemment et c'est quelqu'un d'autre qui l'exprime, mais qui la soigne un peu aussi parce que c'est beau, tu vois,
ouais,
dans la
vrai.
Tête de quelqu'un.
Non, mais je devrais me déconstruire, mais moi, en tant qu'homme, je peux pas pleurer.
Bah viens avec
merci
moi, on fait un stage.
Merci d'être sur Mademoiselle.
Hein.
Non, mais c'est pas obligé de le suivre quand il est insupportable. C'est utile, mais parfois insupportable. Vous le saurez. C'est
non,
aussi pour
j'avoue,
ça qu'on l'aime.
J'avoue que je sais que c'est bien de pleurer, mais c'est des choses que j'arrive
c'est
pas.
C'est sain de pleurer.
Je sais, mais j'ai vu vice versa, ok. Ça qui explique très bien que la tristesse est essentielle, le truc. Mais ça m'empêche pas. Voilà, je suis né en 1978. Il y avait encore la peine de mort en France à l'époque. Je vois, je suis vieux et moi, effectivement, pleurer. C'est compliqué. C'est quelque chose que je ne fais pas.
Mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as envie de travailler ou pas?
Je me demande si votre monde, il est si agréable. Parce que vous avez quand même beaucoup de problèmes quand je vous regarde le Twitter des jeunes.
Le Twitter des
le Twitter
jeunes,
des jeunes
je
qui pleurent.
Des hommes en phase avec leurs émotions.
Ouais,
va faire un séminaire avec Fabrice Florent, là, dans son podcast Histoire de mec, et t'apprendras à pleurer, ce sera super.
Ouais, je sais pas si j'ai envie, en fait. Je suis bien dans mon illusion de monde où on pleure pas.
Mais t'as pas mal au dos ou je sais pas.
Ah, si, c'est complètement. Je suis au bout de ma vie, en fait. Non,
je suis
lucide que ça pose des gros problèmes dans ma vie, mais le fait est que ça s'auto-alimente. Tu vois, tu te dis, je suis hyper mal dans ma peau, mais j'ai pas envie de changer parce que je veux pas être un autre finalement, tu vois. Et pourquoi pas, je sais pas.
Et c'est pour ça qu'on paye des thérapeutes finalement
ouais,
pour nous accompagner
vrai,
sur ce
vrai,
chemin.
Vrai,
je ne peux qu'encourager toutes les personnes et notamment les hommes qui nous écoutent à envisager la possibilité de peut-être aller parler à des professionnels pour être la meilleure version de vous-même si vous en avez envie.
Mais je crois que c'est
déjà formidable.
C'est plus de 70% de meufs, les patientes. Des
tout à fait,
des
en France. Tout à fait. Donc il y a un boulevard. Allez-y. Payez des résidences secondaires au psy, ça leur fera plaisir.
Et aussi, ça évite, comme dans le cas de plein de couples hétéros, que les hommes prennent leur meuf pour leur psy, qui elles ensuite vont parler
toute la charge émotionnelle
à leur propre psy et qui donc payent le double de séance car elles payent aussi pour leur mec qui ne veulent pas y aller.
Mais si on
comme dit le dicton, on va voir des psys pour les gens qui ne vont pas avoir des psys. Et c'est pas toujours faux.
Tu m'as aussi appris un autre dicton, c'est quand tu te dis est-ce que je devrais avoir un psy, c'est déjà trop tard.
Bah c'est déjà oui. Mais la réponse est toujours oui, c'est ça le secret. Un jour peut-être, Fibre Tigre, tu viendras faire ta psychothérapie dans Laisse-moi kiffer.
C'est vrai, il faut.
Merci pour ce kiff fado qui donne très envie d'aller boire du Porto et écouter de la musique triste, Aïda.
Merci à vous de m'avoir écouté.
Mon kiff. Encore une fois, vous le savez, je vous ai prévenu il y a 2 épisodes, si je calcule bien. J'ai passé un week-end pour mes 30 ans avec plein d'activités et je vais toutes vous les raconter. Et comme je n'ai aucune patience, j'ai décidé de commencer directement par, enfin de faire en numéro 2, c'est-à-dire maintenant. Probablement le truc le plus dingue et le clou du spectacle de ce week-end qui était très bien à tous les niveaux. Puisque mes amis m'ont emmené dans le 16e arrondissement de Paris, dans un hôtel particulier.
Le Godentien.
Hein ?
Des go-go danseurs, c'est ça ?
Non, pas de go-go danseurs, mais des costumes et des gens professionnels du spectacle, des intermittents. Car nous avons été à Fever Murder Mystery, qui est l'un des premiers théâtres immersifs à se faire en France. Si vous êtes aficionado de Laisse-moi kiffer depuis le début, vous avez déjà entendu parler du théâtre immersif, puisque Fabrice Florent avait beaucoup parlé de Sleep No More, qui est un grand théâtre immersif à New York, qui avait beaucoup de succès, qu'il a fait trois fois, je crois. Et on en avait parlé aussi avec Patrick Beau, dans je sais plus quel podcast de Mademoiselle, puisque lui aussi l'avait fait. Théâtre immersif, en gros, c'est tu rentres dans un lieu, le lieu, c'est la scène, donc là, l'hôtel particulier, c'est la scène, il n'y a pas une scène, c'est le lieu entier, tu peux naviguer dedans et tout, un peu comme dans un escape. Et il y a des acteurs et des actrices qui sont en personnage, qui sont en costume, et t'as une histoire qui se présente à toi et qui se déroule en suivant les acteurs et les actrices, et en naviguant dans le lieu, et en trouvant des éléments, et en leur parlant, et en enrichissant l'histoire. Donc, c'est pas exactement comme une escape, puisque tu peux pas avancer si t'interagis pas avec les comédiens et comédiennes, donc il faut vraiment le faire. Et c'est pas vraiment du théâtre, puisqu'il y a de l'interaction, et que t'es pas juste en train de regarder des gens faire des trucs. Là, du coup, c'est Fever qui organise Murder Mystery à Paris. Je vous lis le pitch. Automne 1948, dans un hôtel particulier et extravagant du 16e arrondissement, une soirée d'anniversaire privée bat son plein. Mais la fête sera de courte durée. Juste avant le dîner, un membre de la famille est sauvagement assassiné. La tension éclate, les voix se lèvent, les doigts sont pointés. C'est là que tu entres en jeu. Endosse ton manteau d'enquêteur et rejoins l'inspecteur Lavis pour une expérience de 2 heures digne des grands films noirs des 30 Glorieuses. Plonge dans un roman policier grandeur nature et tente de résoudre ce crime énigmatique qui se déroule devant tes yeux. Utilise tes talents de Sherlock pour interroger les suspects, rassembler les indices et démasquer l'auteur du meurtre. Une expérience immersive dans un magnifique hôtel d'époque où le danger rôde à chaque instant. Parviendras-tu à mettre la main sur l'assassin ? Donc nous on arrive d'un gris. On est 4. Nous, moi et mes potes et mon mec. Et il y a, je dirais, une quarantaine de personnes qui sont là avec nous. Donc ça fait un peu de monde dans un hall d'hôtel particulier. Bien évidemment, tout le monde est masqué, tout sauf les comédiens. On arrive, et là, il y a cette famille. Donc il y a plusieurs membres de la famille qui sont des comédiens et comédiennes habillés en tenue d'époque. Ça pose un peu les personnages. On voit qu'il y en a un qui est un peu... qui est un peu nazi concrètement, c'est ce qui se passe, enfin un peu collabo. Y en a une qui est la meuf un peu femme fatale et tout. Il y a un côté très Cluedo dans l'esprit et l'esthétique. Ils s'engueulent et donc il y a un des membres de la famille qui est mort à son bureau avec une balle dans la tête, suicide, assassinat, on ne sait pas trop que s'est-il passé. Et tout le but, une fois que cette intro est finie, on a un petit livret où on peut noter ce qu'on découvre et où on a un petit résumé de qui est qui, parce que quand on est comme moi et qu'on n'a pas la mémoire des prénoms, c'est un peu comme dans les pièces de théâtre, des fois il faut revenir au début du livre pour avoir qui est qui. Et ensuite, on est livré à nous-mêmes, baladez-vous, parlez aux gens, parlez aux comédiens, essayez de observer, fouiller et essayez de comprendre qui a tué la personne et pourquoi.
Vous êtes combien en tout, à part le groupe, petit groupe que t'as donné ?
Je pense qu'en tout, on était une cinquantaine de attending, donc la on se marche pas trop, il y a du monde, mais on se marche pas dessus. Et surtout, moi j'ai eu le temps de parler avec quasiment tous les comédiens en tête à tête. Enfin, en tête à tête, il y avait des gens autour, mais c'est pas genre, ok, bah, on est tellement nombreux qu'on n'aura pas le temps de tout faire et qu'on va être frustré et faire la queue, quoi. T'as toujours des endroits où aller, donc c'est un grand hôtel particulier. Je crois qu'il y a au moins 3 étages qui sont accessibles. Chaque étage, t'as des chambres, des salons, des machins. Et en fait, les acteurs et actrices, à la fois, répondent aux questions des gens, donc en restant tout le temps en personnage et tout. Mais aussi, parfois, ils jouent des scènes où, du coup, il y a quand même des choses qui se passent. Par exemple, à un moment, je voulais parler à un des personnages, et en fait, il m'a dit « pas maintenant », et il a commencé à descendre l'escalier, et il y a son frère qui lui a couru après, ils ont commencé à s'engueuler dans l'escalier, et du coup, tout le monde regarde, parce qu'il y a des informations qui sont, du coup, données par leur dialogue, et par le fait que, je sais pas, leur sœur, elle n'est pas dans la pièce, donc ils parlent d'elle parce qu'ils savent qu'elle n'est pas là, mais il ne faut pas qu'elle le sache, donc après, tu peux aller lui dire, et la meuf, elle va réagir à ce que tu lui apprends. Enfin, c'est très, très interactif, il y a un côté. Voilà, un murder mystery, c'est des choses qui se font. Je sais que notamment Clémence Boyer de Game of Thrones et ex-Daronne de Mademoiselle, enfin ex-rédac-chef de Daronne sur la verticale parentalité de Mademoiselle, une phrase plus compréhensible, et très murder mystery, jeu de rôle, Cluedo en taille réelle. Et du coup, c'est vraiment trop marrant. Alors le budget prod est ouf, vraiment déjà le lieu, ouais, l'hôtel particulier dans le 16e, j'étais là... C'est légal ça à Paris comme type de bâtiment, d'accord. Les costumes sont top, le décor est vraiment bien fait, donc il y a un côté immersif qui est cool. Enfin, c'est du théâtre immersif, donc c'est mieux. Et 2 heures, ça passe hyper vite parce que vraiment, tu cours partout, tu parles à tout le monde. Et puis du coup, après, on se réunissait, on était là. Ok, moi j'ai appris que la cousine machin, oui, ok, mais moi j'ai truc. Et on essayait de se donner nos infos. Mais il y avait tout le temps des trucs qui se passaient. Donc on était là, attends, ils s'engueulent là-bas, on va aller écouter. Attends, moi j'y vais, je vous raconterai, faites le tour de ce que vous vous êtes dit et tout. Donc il y a un côté très fourmilière où tu veux grave partager tout ce que t'as appris.
Et à la fin, il y a tout le monde qui se réunit dans une pièce. Il y a l'inspecteur Lavis qui, lui, évidemment, ne t'aide pas pendant ton enquête, qui vient nous demander, du coup, est-ce qu'on a compris ce qui s'est passé ? Mon groupe s'est courageusement proposé pour répondre. Nous avions 100% faux. Vraiment, on n'avait rien deviné bien. On était là, on pense que c'est un double truc avec genre un bluff et tout. Non, pas du tout. Mais c'est pas grave. On a pu exposer nos conclusions et comment on y était arrivé.
Donc devant 50 personnes, vous êtes chopé la honte.
Oui, mais en vrai, il n'y avait pas grand monde qui avait trouvé. Hein. Donc, il y avait plein de gens qui étaient là, ouais, grave, nous aussi, on avait dit ça. Et après, il était là, alors, non, ce n'est pas ça. Mais même le verdict se fait en personnage et en on vous arrête et tout, machin. Donc, c'est quand même, c'est ludique jusqu'à la fin. Et bah, c'est un truc que je voulais grave essayer parce que, autant Sleep No More, ça ne me donnait pas trop envie, mais parce que ça a l'air de faire un peu peur. C'est un peu creepy. Et il y a des gens qui, des fois, enfin, les comédiens, ils te prennent et ils t'emmènent loin de ton groupe et ils vont te faire des trucs solo dans des pièces. Et j'étais là.
Comme non, au merci, Manoir Halloween Festival.
Ouais, voilà, mais avec plus de budget, plus de pièces. Je me souviens qu'il y avait un bail, il y a une salle qui a un genre de truc de dentiste fou abandonné. J'étais là, oula, mais moi, je vais pas faire ça, vous êtes fous, tout le monde a des masques et tout, c'est un peu flippant. Mm. Pas des masques Covid, des masques genre Eyes Wide Shut, là. Ça avait l'air un peu flippant, Sleep No More, donc j'étais là, je pense pas que, même si j'étais à New York, ce qui n'est pas le cas, je pense pas que c'est mon truc, mais le concept du théâtre immersif m'intriguait. Du coup, je suis très contente de l'avoir fait, c'était vraiment très marrant, et ça change de... Enfin, c'est assez unique comme expérience, c'est un peu comme la première fois que tu fais une escape, quoi. Ah oui, c'est vraiment très marrant de faire ça, et c'est... Il n'y a pas beaucoup de rejouabilité, pour le coup, mais c'est un petit moment unique, c'est à la fois... public et personnel, puisque certes, il y a plein de monde, mais en vrai, moi, j'étais avec juste mes potes et t'es pas obligé. Enfin, tu parles aux comédiens, évidemment, mais t'es pas, c'est pas un truc genre, allez, vous allez tous faire ensemble, où je suis là, oh non, j'aime pas les gens quand même, il faut interagir avec d'autres gens. Ça, j'aime pas trop, et je sais que Sleep No More, c'est ça, genre, au début, ils te tirent au sort, en fait, et ils te font partir sans tes potes, enfin, ils te tirent une carte et du coup, tu restes pas avec ton groupe.
Ok.
Ce qui m'avait très donné flippant. Peu envie aussi. Et du coup, je suis très contente d'avoir testé ça. Ça coûte quand même 55 balles par personne, ce qui est cher, mais c'est deux heures assez uniques
je
avec.
Je crois que c'est très cher.
C'est pas très cher. En vrai, c'est deux fois le prix d'une escape et c'est deux fois plus long. Et il y a quand même, voilà, du beau budget derrière. Il y a des comédiens à payer. Il y a
deux heures.
Ça dure deux heures, ouais.
Ouais, parce que, enfin, moi, tout de suite, j'ai fait le budget. Je dis, bon, ça va coûter 100 euros. Effectivement, là ils gagnent 2500 euros pour une séance de deux heures. Moins les comédiens, moins le loyer, la marge est
ouais.
pas énorme.
Oui, carrément. Donc, ça reste. C'est une somme, mais c'est pas non plus dans le domaine de l'impossible. C'est 55 balles par personne, hein, bien sûr, pas pour le groupe. Et franchement, c'est une expérience très fun. Donc, c'est Fever Murder Mystery. Et nous, on l'a fait, c'était la dernière séance de 2021. Mais ça reprend dès janvier. J'avais noté. Non, j'avais pas noté. C'est le,
s'il y a pas le COVID.
23 janvier, je crois, que ça reprend. Donc, s'il n'y a pas le Covid, évidemment. Donc, si vous passez par Paris, franchement, testez. Et dans la plupart des capitales d'Europe, maintenant, ça se fait, les théâtres immersifs.
Londres j'imagine... le fait beaucoup, ouais.
Oui, bah oui, dans le monde anglo-saxon, il y a plus de. Ouais. C'est un peu comme les comédies musicales, Broadway et tout, c'est un peu plus courant. Donc il y a un côté escape qui est marrant, et en même temps, il y a un côté très théâtre qui est aussi très chouette. Mmh. J'ai trouvé que les comédiens et comédiennes étaient super, les costumes étaient super. C'était marrant de voir. Parce que des fois, on finissait par genre, tu poses un bout de fesse sur une chaise et tu parles avec tes potes, et t'es là, ok. Donc moi je pense que c'est la cousine, elle est hyper louche parce qu'elle a raconté ça et moi j'y crois pas. Et en fait la personne est à côté en train de aller là en mode ça va, on vous dérange pas. Mais elle reste en personnage et elle fait comme, mais elle interagit quand même. Enfin, elle nous a vraiment dit ça va, je vous dérange pas de me soupçonner alors que j'ai rien fait. Enfin, comme si c'était une vraie personne à côté de qui des policiers disent je pense que c'est elle la coupable. Donc c'est marrant, ça t'oblige un peu à réfléchir, à rester dans le jeu quoi. Voilà, c'était très marrant. C'est Fever Murder Mystery et si vous avez l'occasion, franchement essayez, c'est ultra fun. Ça bravo aux comédiens et comédiennes.
Trop bien.
Est-ce que c'est la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer ?
Ça y ressemble.
Est-ce qu'on s'est tout dit ?
Est-ce qu'on a d'autres choses à se dire ?
Ah, on aura toujours d'autres choses à se dire.
Est-ce qu'on peut savoir la fin de Gone ?
Non, on ne peut pas savoir la fin de Gone. Vous irez lire Gone, ou vous irez googler, ou vous irez en DM sur le compte Instagram @laisse-moi kiffer. Et si vous êtes sage, peut-être que Mathis vous racontera la fin de Gone.
Demandez-moi un DM Insta, voilà, juste pour me suivre au passage. Voilà.
Tout à fait. Et tant que vous y êtes, allez suivre @fibretigre sur
oh là
partout.
Là,
Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, what else?
C'est le meilleur cadeau qu'on puisse me faire.
Oh,
et vraiment, si vous voulez me faire un beau cadeau, vous créez plusieurs comptes et vous me laissez plusieurs comptes. Non, mais c'est vrai.
C'est toujours le moment où ça devient capitaliste immédiatement. Quoi. C'était N'hésitez mignon pas. Pendant un temps. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir
Merci.
Été là.
Merci.
Merci, cher LM Crado, Merci. D'être toujours fidèle au poste chaque jeudi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vais vous faire le petit topo si vous voulez être dans Laisse-moi kiffer finalement. Si vous voulez envoyer un commentaire écrit ou une dédicace écrite, ça se passe sur Apple Podcast avec
5 étoiles.
Yes. Pour les messages boubou, les messages réré, les messages bourré, et pour les jingles audio ou les dédicaces audio, c'est aussi possible. Ça se passe soit, comme on l'a eu aujourd'hui, quelqu'un de très studieux qui nous l'a envoyé à laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com, une adresse mail qui fonctionne, soit en DM sur le compte Instagram @laisse-moi-kiffer, on survivra aussi. Des gros bisous, prenez soin de vous, soyez
bisous.
Heureux,
merci, c'est
la vie,
tous.
Et kiff à la semaine prochaine.
Kiff
comme kiff comme coff. C'est horrible. Bye bye.
Bisous.
Bisous.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.